Nous allons pouvoir commencer.
La pièce comptée arrive après.
Ça, c'est une bonne idée.
Merci beaucoup. Donc, pour cette dernière table ronde, nous allons nous intéresser à des activités que nous avons rangées dans la grande valise de l'alternatif. Alors, il s'agit effectivement d'un terme valise à la géométrie sociopolitique variable, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste Combi. Et les intervenants que nous avons invités nous diront peut-être d'ailleurs si ce label d'alternative leur convient ou non, de même qu'ils pourraient souhaiter se positionner par rapport à d'autres valises tout aussi volumineuses, tout aussi souples. Je pense en particulier à la notion de transition. Alors, malgré sa relative faiblesse, la catégorie d'alternative autorise au moins à penser ensemble différentes expérimentations qui admettent pour dénominateur commun une volonté de montrer très concrètement, à travers la pratique, que, en matière de consommation notamment, d'autres pistes que celles imposées par l'ordre économique peuvent toujours être explorées. De quoi est-ce que l'on parle? Dans le prolongement de ce qui a été rapporté hier lors de la table ronde qui était animée par Arnaud, est consacré au circuit court, il est question ici, un peu plus largement, de lieux d'échange de savoir en matière de permaculture, d'ateliers participatifs, de bricolage, d'autoréparation, d'entretien de cycles, d'épiceries coopératives, ou encore par exemple de ressourceries créatives dans lesquelles des artistes, des artisans d'art, des particuliers aussi, vont se fournir en matériaux, en objets, pour réaliser leurs propres créations. Comment témoignent les travaux qui ont été présentés ce matin sur l'histoire déjà longue de la solidarité? Ce qui émerge aujourd'hui n'est pas forcément d'une absolue nouveauté. Il sera par exemple question d'une coopérative de production tout à l'heure. Et les héritages sont nombreux, notamment sur le volet de l'émancipation, puisqu'on ne se borne pas à faire circuler ici des ressources de manière très prosaïque, mais qu'il s'agit aussi de favoriser une prise de distance à l'égard de l'ordre établi. Cette session va représenter donc une occasion d'en apprendre davantage sur ces alternatives, en donnant un aperçu de la variété, alors, de leurs objets, mais aussi de leur mode de fonctionnement. Et pour les participants à la table ronde, eh bien, donner un aperçu, cela va d'abord consister à détailler ce que l'on fait au sein de ces collectifs, dans ces associations, dans ces coopératives, et surtout comment on le fait. Alors, je les remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation. Donc d'abord, Louise Ollier qui est accompagnatrice de projets culturels, qui vient parler de l'activité de la Gibeuse à Poitiers. Hein. C'est une initiative locale qui vise notamment à échanger des savoirs sur la permaculture, sur l'éco-construction. Julie Reynard, qui est donc co-gérante de la SCOP Le Plan B. C'est un bar Poitevin qui donc distribue des produits exclusivement bio, locaux, et puis qui a d'autres activités, qui héberge aussi une AMAP, qui accueille des projets culturels, des événements culturels, qui propose aussi des espaces de coworking, hein, c'est cela. Et puis, Jackie Debain et Alain Sillard, qui sont venus représenter l'association CBD, c'est-à-dire Cultivons la biodiversité, au sein de laquelle ils animent un collectif de jardiniers qui sont préoccupés de limiter la dépendance des professionnels de l'agriculture, mais aussi de particuliers, hein, à l'égard de grands semenciers qui quadrillent aujourd'hui le marché. Arnaud Meige, sociologue, qui est l'auteur d'une thèse sur le mouvement des décroissants, fraîchement soutenue à Poitiers. Ton intervention va apporter notamment un éclairage sur les cadres idéologiques, hein, qui sont communs aux porteurs de ces initiatives. Et puis aussi, tu vas parler un peu de leur propriété sociale, je crois, c'est la propriété sociale des animateurs et des participants, hein, un ensemble d'initiatives décroissantes. Alors, dans le cadre spécifique de ce festival, et plus encore après les discussions qui ont été amorcées ces derniers jours, mieux connaître ces initiatives, cela implique également de tenter de situer un peu plus précisément leur action sur un plan sociopolitique et d'en saisir l'éventuelle portée critique et émancipatrice. Donc cela revient à essayer d'une part de retrouver quelques repères dans ses engagements, malgré ou à travers ce que Jean-Baptiste Combi hier appelait le brouillard néolibéral. Par exemple, on peut se demander comment lire les appropriations des modèles et des valeurs de l'entrepreneuriat par certains alternatifs. On peut se demander comment interpréter la diffusion dans certains cercles progressistes d'une rhétorique solutionniste. Alors, qu'est-ce que c'est que le solutionnisme ? C'est une façon de valoriser des réponses extrêmement fragmentées, souvent à dominante technologique, mais pas uniquement, et qui sont ces réponses sont apportées à des questions hyper contextualisées. Et donc, le fait que ces réponses soient très fragmentées, eh bien, ça concourt à une dépolitisation, en tout cas un découplage avec des étages collectifs, des structurations collectives, les rapports sociaux, etc. D'autre part, il paraît utile de réactiver le questionnement d'hier sur les voies de la politisation des alternatives, en ajoutant à ce propos, avant de donner la parole aux intervenants, que selon les initiatives, selon leur ancrage, qu'il soit rural ou urbain, mais aussi selon l'appartenance générationnelle de leurs porteurs, eh bien, que cette politisation, comme les relais vers les organisations ou le militantisme politique, ne sont pas toujours de la même nature, même si certains semblent tout de même repérables. Donc, Arnaud, je vais te laisser la parole, enfin, je vais te laisser terminer.
Bon, bah, merci beaucoup Sofiane pour cette présentation et merci aussi de m'avoir invité à participer à cette table ronde donc, qui propose, comme tu l'as dit, d'engager une discussion sur les alternatives, autrement dit sur les pratiques concrètes en lien avec des perspectives militantes qui revendiquent d'autres manières de produire et de consommer. Alors, pour parler de ces alternatives à la société de consommation, je vais m'appuyer largement sur mon travail de thèse. Dans ce travail, je me suis intéressé à une forme d'engagement militant particulière, donc l'engagement pour la décroissance. Alors, dans un premier temps, je vais partir des principes théoriques et éthiques qui structurent cet engagement pour proposer dans un deuxième temps une réflexion qui se voudra un petit peu plus large sur ce que recouvrent les alternatives qui sont valorisées par les militants décroissants. Alors la décroissance, en tant que label, support d'un engagement militant revendiqué, elle fait son apparition en France au début des années 2000. Cette entrée dans l'espace des idées et pratiques militantes peut s'expliquer, il me semble, selon trois facteurs. Alors le premier, tout d'abord la décroissance, elle apparaît au moment même où le label anti-mondialisation se déradicalise pour se transformer sous celui d'alter-mondialisation. Et du coup, ça laisse une option pour des groupements militants de promouvoir, sous un autre label, des formes d'activisme plus radical. Ensuite, même si la formule « développement durable » est plus ancienne, c'est au début des années 2000 qu'elle trouve une place centrale dans les débats politiques. Qu'ils soient de gauche comme de droite, tous les partis politiques se rallient à la cause du développement durable, c'est-à-dire à l'idée que l'écologie ne doit pas être un frein au capitalisme, mais finalement une manière de le faire perdurer. C'est aussi à cette période que sont entreprises les dénonciations de greenwashing effectuées par les multinationales pour lesquelles le développement durable apparaît comme une vitrine derrière laquelle les multinationales peuvent masquer bon nombre de leurs activités polluantes. Et enfin, ces deux observations, elles s'inscrivent dans un contexte plus global qui se voit caractérisé de crise et qui, de fait, suscite des interrogations quant aux possibilités d'en sortir. On entend et on lit alors des discours contradictoires, certains valorisant la relance à tout prix et d'autres, très minoritaires, remettant en cause le principe même de la croissance économique. Donc, face aux injonctions à consommer pour favoriser la relance de l'économie, et aux annonces sur l'augmentation du pouvoir d'achat, des militants antiproductivistes, réunis sous la bannière de la décroissance, se sont organisés pour produire et diffuser un contre-discours valorisant à l'inverse une diminution du PIB nécessitant une déconsommation généralisée. Donc, en ce sens, on peut dire que la décroissance, elle propose de rompre avec la vision développementiste et, ce faisant, remet radicalement en cause l'idée de l'existence du bonheur dans l'acte de consommer. Elle renoue en cela avec deux perspectives militantes. Alors, la première, on peut la considérer du point de vue de la critique écologique. Alors, elle s'attache aux constats qui ont été dressés au début des années 70 sur la limite de la croissance et plus précisément sur le caractère fini des ressources naturelles. Et le deuxième point, donc, qui est plutôt appréhendé du point de vue de la critique sociale ou artiste, voilà, La décroissance, elle se pose comme l'héritière d'un courant spécifique du personnalisme initié dans les années 30. Donc ça, c'est pour le cas français. En effet, la décroissance, elle se situe dans la poursuite des réflexions et des idées développées par deux intellectuels, dont on a par ailleurs parlé hier, français, qui ont initié un courant dissident au sein du personnalisme, et ce courant s'appelait le personnalisme gascon. Donc il est né officiellement en 1938, et il a été porté notamment, et principalement même, par Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, qui ont produit de nombreux écrits, à la fois sur ce qu'ils ont nommé la dénonciation du système technicien, et sur le sentiment de nature doté d'un potentiel révolutionnaire. Du coup, on retrouve dès les années 30 la mise en lien des fondements de la décroissance, d'un côté la critique de la modernité et de l'aliénation générée par les machines, et de l'autre la volonté d'un recours idéalisé à des formes de vie plus autonomes et communautaires, en prise avec la nature, afin de réaliser pleinement l'homme dans la multiplicité de ses dimensions. Alors, c'est-à-dire, pour les personnalistes, de réaliser le passage de l'individu, donc cet individu qui serait pris dans les structures sociales et politiques, et en même temps, c'est là aussi un peu le paradoxe, qui est livré à lui-même dans la jungle du libéralisme, à celui d'une personne qui, elle, serait nécessairement émancipée, libérée. Donc cette perspective historique, alors que j'ai brossé à très grands traits et en moins de 3 minutes, elle permet de comprendre quand même cette revendication qui traverse l'espace militant pour la décroissance, qui est celle du ni gauche ni droite. Le personnalisme, du coup, il s'est historiquement posé contre le communisme et plus largement toute la gauche productiviste, mais également contre le libéralisme, sans toutefois s'affilier directement aux doctrines anarchistes qui rejettent profondément l'État. Mais c'est grosso modo le discours tenu idéologique par les décroissants aujourd'hui en France. On peut du coup dire que la production d'un contre-discours face au développement durable, qui depuis les années 90 apparaît comme le discours des dominants et se voit repris par l'ensemble de la classe politique, a contribué à positionner la décroissance en rupture vis-à-vis de la quasi-totalité des engagements militants, qu'ils soient de droite comme de gauche, mais aussi des formes d'engagement écologiste qui ne remettent pas fondamentalement en cause les logiques progressistes ou encore de celles trop radicales pour bon nombre de décroissants qui incluent la lutte contre l'État dans leurs argumentaires militants. C'est pourquoi du coup les discours qui sont portés par les promoteurs politiques des idées pour la décroissance n'ont que peu d'écho. Alors si on considère l'entrée en politique du Parti pour la décroissance il y a environ une dizaine d'années, ils apparaissent leurs propos comme très illégitimes et relégués à des positions marginales au sein du champ politique. Plus largement, on peut considérer que l'engagement militant pour la décroissance, c'est un engagement qui s'effectue et se joue donc aux marges du politique, c'est-à-dire au sein d'espaces et de lieux qui ne sont a priori pas directement concernés comme des moyens de faire de la politique. C'est pourquoi, pour comprendre les manières de décroître, donc les manières de militer pour la décroissance, il faut considérer ces espaces comme autant de lieux où peut être mise en jeu l'alternative pratique que revendiquent les militants pour faire vivre leur engagement. Dans cette perspective, le premier constat que l'on peut dresser est que l'espace local apparaît comme le lieu de référence pour faire vivre l'engagement. Alors cet engagement, il prend alors la forme d'alternatives concrètes ou d'expérimentations sociales minoritaires qui peuvent revêtir aussi bien des formes collectives, par exemple lorsque les militants s'insèrent localement au cœur des associations ou des initiatives informelles locales. Donc tu les as nommés tout à l'heure, mais je peux les redire très rapidement, les jardins collectifs, les chantiers participatifs, des groupes libertaires anti-pub, des ateliers d'autoréparation de vélos, une AMAP, des jardins, voilà, etc., etc. Mais elles peuvent aussi revêtir des formes individuelles, par exemple lorsque les militants les constituent plus largement en un mode de vie spécifique, qui trouve à s'exprimer au quotidien dans le cadre de la sphère privée du chez-soi. L'idée centrale qui réunit toutes ces pratiques trouve à s'exprimer sous le mot d'ordre du faire. Alors faire, F-A-I-R-E, je précise, c'est-à-dire un mode d'action qui se traduit en acte ici et maintenant. Sur ce point, on retrouve alors une certaine déconnexion entre la capacité des militants à mettre en mots leur engagement et leur capacité à l'exprimer de manière pratique. J'ai pu par exemple constater qu'il était plus évident pour les militants de nommer la décroissance par des pratiques et au contraire, une difficulté à dire avec des mots ce qu'est la décroissance, c'est-à-dire où elle se situe précisément d'un point de vue idéologique ou encore en quoi elle se différencie d'un engagement strictement écologique ou plutôt libertaire. La réponse formulée, donc, elle mettait alors en évidence un engagement écologiste radical, mais pour autant pas forcément aussi radical que celui que pouvaient revendiquer par ailleurs les anarchistes. Par exemple, je me souviens des propos d'une militante qui me disait que pour elle, son engagement pour la décroissance, il était écolo et libertaire, mais que c'était avant tout un mode de vie qu'elle voulait cohérent avec ses idées. Et donc cette volonté de faire pour la décroissance, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire de montrer aux autres en même temps qu'on se prouve à soi-même qu'on est militant, ça renvoie à un souci de mise en cohérence de soi, et ça témoigne de la spécificité de ce militantisme qui cherche à s'incarner concrètement dans des pratiques qui sont appelées alternatives. Donc l'alternative, elle permet ainsi aux militants de proposer un ensemble de manières d'être et de faire en capacité de rompre avec les logiques consuméristes dominantes. S'il s'agit de faire pour la décroissance, il est donc en question, en creux, de ne plus faire pour la croissance et donc, au final, de ne plus faire comme les autres, celles et ceux qui sont perçus par les décroissants comme des consommateurs. Donc cette volonté d'être dans l'alternative au quotidien, elle vise alors à générer une identité militante particulière qui permet de se différencier de celles et ceux qui, selon les critères militants, consomment mal ou trop. Et trop, d'ailleurs. L'enjeu, du coup, pour les décroissants, c'est de valoriser leurs pratiques comme autant de manières de faire qui sont en capacité de se distinguer de celles des autres, donc les autres au sens très large, de ceux qu'ils peuvent nommer les consommateurs, les superconsommateurs, mais aussi de correspondre aux normes qui sont valorisées par les injonctions à consommer moins, à devenir maître de ses usages ou encore à ralentir sa vie. Il y a donc bien d'un côté cette volonté de se distinguer des pratiques et manières de faire dominantes, qui sont alors rejetées pour leur contribution à la bonne marche de la société de consommation, et d'un autre côté cette volonté de se conformer à d'autres normes, dominées dans l'espace social, mais légitimes pour les décroissants. Il faut donc être différent des autres pour se retrouver identique, lorsque l'on est entre soi. Et la conformité aux bonnes pratiques, c'est-à-dire aux pratiques qui sont reconnues comme étant légitimes par les militants pour la décroissance, suppose un engagement conséquent qui se traduit par l'adoption de choix de vie en accord avec ses convictions. Donc, cependant, cette mise en conformité de soi, quand bien même elle s'appuie sur une volonté partagée de faire, elle suppose de questionner les conditions de sa réalisation. Ce n'est pas parce qu'on veut faire autrement qu'on en a nécessairement la possibilité. En effet, donc, les freins à la pratique militante tiennent à de multiples causes. Il faut tout d'abord considérer le cadre de la mise en place de ces alternatives. Lorsque l'alternative elle est pensée comme un engagement existentiel, le lieu de vie revêt une grande importance. Est-ce qu'on peut en effet pratiquer la décroissance dans un studio en location en centre-ville ? A priori, pourquoi pas, mais de ce que les militants m'en ont dit, se sentent davantage militer dès lors qu'ils deviennent propriétaires de maisons avec des jardins. Aussi, on constate un paradoxe entre l'idée générale de déconsommation que défend la décroissance et la volonté idéalisée des militants de devenir propriétaire d'un lieu de vie idéalisé, tout simplement parce que dans ce cadre précis, il aurait ou leur serait possible de multiplier les pratiques alternatives et donc de faire preuve de leur engagement. Donc, comme j'ai déjà dit, les pratiques alternatives localisées, elles sont au cœur de l'engagement pour la décroissance et ne pas être en capacité de les revendiquer, c'est alors ne pas être légitime à se dire militant. Et paradoxalement, il se trouve qu'il faudrait posséder au moins un bien immobilier et un jardin pour se prétendre être un déconsommateur. Petit paradoxe. Donc ce paradoxe s'explique au regard de la volonté des militants à vouloir être autonomes. Pour eux, posséder un lieu à soi, c'est se donner la capacité d'en faire ce que l'on veut et donc la possibilité de choisir d'y faire vivre des pratiques alternatives. Une militante me disait par exemple à ce sujet qu'elle préférait partir de quelque chose à construire par et pour elle-même que de vivre dans ce qu'elle appelle la merde des autres. On voit alors comment s'effectue l'occupation des marges. Elle ne cherche pas à remettre fondamentalement en cause le système productiviste, mais à servir d'exemple, à montrer qu'il est possible de vivre autrement sans pour autant tout révolutionner, puisque l'accès à la propriété demeure le mode d'installation privilégié, ce qui témoigne du coup de ce goût petit bourgeois, on pourrait dire, qui est valorisé par les classes moyennes et supérieures, assez ou fortement cultivées. On en vient alors à poser la question suivante. Comment rester cohérent avec ses idées, être en accord avec ses convictions, dès lors que les conditions matérielles de la réalisation de son engagement sont insuffisantes? Comment militer au quotidien, pour reprendre l'expression des militants, lorsqu'on ne dispose pas d'un lieu à soi qui soit favorable à la mise en place du militantisme pour la décroissance? Donc, mobiliser le répertoire d'action des pratiques alternatives, ça n'apparaît donc pas comme quelque chose qui va de soi pour l'ensemble des militants. Ainsi, les alternatives militantes ne sont pas assimilables à une communauté de pratiques non hiérarchisée à laquelle tous les militants auraient la possibilité de participer. Au contraire, il s'agit davantage d'un espace au sein duquel se produisent et reproduisent des formes d'inégalité entre les militants. Parce que tous ne peuvent pas accéder au moins dans l'immédiat à la propriété privée, et que tous ne disposent pas de jardin, il apparaît plus difficile, à certains qu'à d'autres, de faire pour la décroissance. Ce sont alors clairement les militants les plus dotés, finalement celles et ceux qui disposent de ressources économiques relativement stabilisées, qui ont le plus de marge de liberté pour exprimer leur identité militante. Alors cependant, les moins dotés, donc majoritairement les plus jeunes et aussi les plus précaires, ne sont pas pour autant exclus de l'engagement. Ils peuvent en effet mettre en jeu d'autres ressources. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. C'est pourquoi, du coup, à l'intérieur de ce répertoire des pratiques militantes pour la décroissance, j'ai proposé une typologie qui se découpe en trois registres, à savoir le faire moins, le faire soi-même et le faire sans. Alors le faire moins, c'est ce qui regroupe l'ensemble des pratiques de déconsommation qui visent à restreindre la quantité des ressources utilisées, par exemple en diminuant la température de son logement, en limitant l'usage d'un véhicule motorisé ou encore en limitant sa consommation de viande, par exemple. Le second, le faire soi-même, regroupe l'ensemble des pratiques qui permettent de devenir producteur de ses propres consommations. Ainsi, ces pratiques de faire soi-même sont à comprendre comme autant de manières de ne pas s'en remettre au secteur marchand et à ses marchands, et donc en cela garant d'une certaine forme d'autonomie pour les militants. On peut mentionner par exemple le jardinage, qui permet de concourir à l'autoproduction alimentaire des militants, mais aussi la couture ou la réalisation de mobilier fait maison. Enfin, le troisième registre, le faire sans, il regroupe toutes les pratiques de non-consommation, c'est-à-dire les pratiques qui n'ont plus ou pas lieu d'être pour les militants. Par exemple, vivre sans réfrigérateur, sans téléphone portable ou encore sans voiture apparaissent comme autant de refus à même d'exprimer un rejet du consumérisme. Néanmoins, s'il existe d'autres manières de faire autrement, en faisant moins, en faisant soi-même ou en faisant sans, il faut bien admettre l'effet attractif que génère la possibilité de disposer de ce fameux lieu de vie idéalisé au sein duquel il n'existe aucun obstacle à la réalisation de la décroissance et qui, par extension, est également à comprendre, du point de vue des militants, comme une réalisation de soi. En effet, dans bon nombre de discours recueillis sur le terrain, avoir une maison, habiter à la campagne ou bénéficier d'un jardin étaient autant de souhaits formulés vers un projet idéalisé. Il y a donc d'un côté ce que les militants souhaitent faire et de l'autre ce qu'ils peuvent faire. Faire davantage est alors reconnu comme un gage de reconnaissance militante car il permet, en maximisant les pratiques, de donner à voir ce que l'on est réellement et ainsi de se voir qualifié en retour de vrai militant. Et cette image du vrai militant, donc, elle permet alors de maintenir un certain niveau d'exigence pratique. Et en cela, le faire apparaît comme la condition sine qua non de l'engagement parce que précisément il permet de ne pas rester dans le registre du discours et des prises de position théoriques. Dire sans ne rien faire, autrement dit parler de la décroissance sans la pratiquer soi-même, ne permet ni de se dire militant, ni d'être reconnu comme tel. Ainsi, l'engagement n'existe que parce qu'il se voit et trouve à s'exprimer de manière concrète dans diverses alternatives. Voilà pourquoi une des possibilités qui s'offre aux militants les moins dotés est de se regrouper en investissant massivement les initiatives locales. Autrement dit, quand il n'est pas possible de faire pour la décroissance chez soi, les militants se retrouvent à l'extérieur et prennent part à l'animation de groupements associatifs ou collectifs dans lesquels ils retrouvent un sens à donner à leur engagement. Donc on peut voir un quatrième registre se dégager qui vient s'ajouter aux trois précédents et qui serait du coup le registre du faire ensemble. Et le faire ensemble se révèle alors comme une stratégie pour contourner les difficultés à mettre en place au quotidien des routines pratiques individuelles. De plus, cette mise en interaction avec d'autres semblables permet d'opérer des formes de contrôle qui permettent, pour reprendre l'expression d'une militante, de progresser dans son engagement. En effet, livrés à eux-mêmes, les militants les moins dotés, ceux qui vivent dans des lieux de vie peu adaptés à l'expression de leur volonté de faire, ne bénéficient pas de ce contrôle des uns sur les autres. Ainsi, on comprend comment le groupe peut agir de manière implicite, mais parfois explicite aussi, sur l'individu et définir les contours normatifs de ce qui est attendu d'un vrai militant. Pour autant, si ce contrôle normatif informel encourage les militants à l'adoption des bonnes pratiques, ils ne semblent pas en capacité d'imposer une idéologie clé en main. La force de la pratique agit en quelque sorte comme un poids qui vient écraser les dimensions idéologiques de l'engagement. En effet, on peut très bien réunir une diversité d'individus autour d'un projet pratique sans évoquer à un seul moment le sens politique à donner à ses actions. Autrement dit, la survalorisation du faire permet de faire nombre, mais pas forcément sens, puisqu'on peut retrouver au sein d'un même collectif, par exemple une AMAP, des individus porteurs de convictions différentes. Pour certains, il s'agira de manger des légumes sains, pour d'autres de soutenir l'agriculture locale, pour d'autres encore de boycotter les supermarchés, et pour les plus radicaux, peut-être, de lutter contre le productivisme. Ainsi, les alternatives que l'on peut appeler de manière très large éco-citoyennes, si elles apparaissent comme des moyens d'expression pratique d'un engagement militant, ne sont pas nécessairement des lieux politisés et politisables. Il est en effet plus simple de réunir des individus autour d'initiatives, de projets ou encore d'expérimentations, lesquels encouragent la participation et l'investissement, et dont le résultat a des effets concrets et immédiats. Donc tout ça, c'est plus simple que de réunir des individus autour d'idées, de points de vue et de discours qui peuvent apparaître clivants, générer des tensions et finalement des désaccords, qui mettraient alors en péril le collectif et donc la réalisation des projets pratiques. Donc ce constat que je dresse ici pose deux questions. Tout d'abord, la question de la dépolitisation des alternatives. C'est typiquement le cas d'une militante qui m'avait fait part de son sentiment d'accomplissement à venir chaque année au festif du mouvement des objecteurs de croissance, parce qu'ici, me disait-elle, au moins, elle pouvait dire qui elle était, alors que partout ailleurs, c'est-à-dire au sein de toutes les initiatives dans lesquelles elle était inscrite, personne ne voyait, m'a-t-elle dit, sa cohérence. Et donc elle m'exprimait son sentiment de frustration à ne pas être reconnue comme une militante, et montrait en même temps que dans les initiatives et les collectifs dans lesquels elle était inscrite, cette dimension politique et militante était bien en retrait par rapport à la pratique. Le deuxième constat, c'est aussi une limite, c'est celui des logiques de récupération des alternatives. On voit du coup comment cette volonté, parfois flagrante, de ne pas faire de politique, conduit certaines initiatives locales à se voir récupérées par les promoteurs du capitalisme, qui trouvent, ou peuvent trouver, dans l'expression de ces alternatives pratiques, de potentiels supports d'innovation économique. Et ainsi, je terminerai sur ces quelques lignes en disant que l'occupation des marges du système, elle met à jour deux versants. D'un côté, cette occupation, elle permet de créer et de faire vivre des lieux où l'on peut faire, et donc produire et consommer autrement. Et de l'autre, donc sur l'autre versant, elle se propose, malgré elle, et c'est à mon sens un risque, comme des laboratoires à ciel ouvert pour les promoteurs du capitalisme qui, au regard du poids minime du discours idéologique tenu sur ces pratiques, s'appuient sur les dimensions émancipatrices de ces pratiques, donc des dimensions qui valorisent tout à la fois l'autonomie, le faire soi-même, la responsabilité, l'auto-organisation, l'innovation, le projet, l'initiative ou encore l'expérimentation, pour les intégrer progressivement aux logiques du capitalisme. Je vous remercie.
Merci Arnaud. Je propose donc de donner la parole maintenant soit à Julie, soit à Louise, qui décide de se lancer.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces éléments de contexte qui font énormément écho à ce que j'ai l'impression qu'on a cherché à mettre en place à la Gibeuse. Du coup, je souriais à différents moments de l'exposer parce que j'ai l'impression vraiment d'être largement connectée à ces propos, autant dans les questions que vous posez en conclusion que sur aussi le déroulé de ce que nous on a pu mettre en place. Donc je me présente, Louise Ollier, je suis au conseil d'animation d'une association qui s'appelle La Gibeuse, qui est basée à Poitiers, donc c'est Poitiers Sud, à côté des Trois Cités. On est en fait au bord du Clain, sur un coteau qui était devenu une friche, en fait, et du coup que mon compagnon et moi-même avons acheté il y a maintenant 4 ans et demi, l'envie d'en faire un lieu support d'expérimentation autour de la permaculture et de ce qu'on traduit par écologie pratique. Et ceci de façon collective. Permaculture, peut-être que ça m'intéresse quand même de décrire un peu ce que nous on met derrière, parce qu'on dit plein de choses autour de ce mot-là. Pour nous, il questionne pas seulement la question de l'alimentation et de comment on produit aujourd'hui. Pour nous, c'est une réflexion qui est plus globale. Enfin, c'est pas pour nous, c'est dans les lectures qu'on a pu faire et notamment des écrits qu'a fait Bill Mollison dans les années 70. C'est un Australien qui a écrit ces propos-là. Et en fait, je leur traduirais ma définition que je vous transmets, qui n'est pas forcément littérale par rapport à celle qu'a écrit Bill Mollison, c'est l'idée d'observer en fait la nature, comment elle fonctionne, comment elle se reproduit, et puis de créer en fait à partir de cette observation un écosystème qui sera résilient et où l'homme va pouvoir trouver sa place. Du coup, ça vient interroger toutes les dimensions de la vie, finalement, puisque on va interroger avec ce filtre-là comment on habite, comment on mange, comment on apprend, comment on fait ensemble, les questions de l'eau, de l'énergie, et ainsi de suite, et puis de la société aussi de façon plus générale. Et voilà, donc c'est avec ces éléments-là de réflexion qu'on a cherché en fait à aménager ce lieu-là, et à le rendre habitable, à le rendre nourricier, et à en faire un lieu où on partage du faire, donc F-A-I-R-E, effectivement, ensemble. Comment ça s'est passé ? En fait, à partir de cette envie-là, donc, qui était vraiment une envie privée, enfin, voilà, de l'ordre d'une initiative privée, on a en fait lancé des invitations pour un été, donc c'était l'été 2013, et en fait on a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel, des gens qui venaient d'un peu partout en France, qui avaient l'habitude de, enfin qui avaient envie en fait de découvrir en faisant, et du coup qui se sont inscrits à ce chantier participatif qui a duré 3 mois. Donc le lieu était ouvert et puis voilà, et du coup on accueillait ceux qui venaient, hein, il n'y avait pas de sélection et liée aux compétences ou quoi ou qu'est-ce. Et puis en fait voilà, donc c'était un fonctionnement qui était assez simple, c'est-à-dire qu'on avait créé une petite cuisine d'été, on avait voilà un camping, c'était très très sommaire, et puis on avait mis en place un système en fait de système de prix libre. Donc il y avait une adhésion, enfin non, à ce moment-là il y avait pas d'assaut, donc il y avait pas d'adhésion, mais il y avait voilà l'idée de participer en fait à la création du lieu. Et puis au niveau de la nourriture, on fonctionnait sous un système de prix libre qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est-à-dire on annonce le prix que ça coûte de manger ici en bio et au maximum en local, généralement sur du végétarien, et puis du coup voilà, on annonçait le prix que ça nous coûtait nous de faire ces achats là ou de produire sur place, et puis du coup les gens mettaient dans une caisse ce qu'ils pouvaient mettre, donc en fait il n'y avait pas de limite d'argent, voilà. Et en fait, le constat de ce premier été, c'est que bah, y a eu une centaine de personnes qui est passée en file comme ça sur l'été, et puis vachement de répondants. Et donc l'hiver, qui est une période un peu plus calme pour nous au niveau des chantiers, nous a permis de nous dire bah tiens, comment on prend ce qu'il y a eu de mieux, enfin de ce qu'on a vécu de plus positif sur le lieu, et comment potentiellement on lui donne une structuration. Et d'où la création d'une association, donc on était sept membres donc, de cette nouvelle association à la fonder, des Poitevins, les sept étaient Poitevins, et donc avec un objet qui était que la gibeuse, donc ce lieu, soit support d'expérimentation autour donc, de la permaculture et de l'éco-construction. Voilà, du coup aujourd'hui notre fonctionnement c'est vraiment de proposer en fait donc un espace qui peut être support d'activité, donc en fait de façon assez concrète c'est toute personne qui a envie de tester des choses, d'apprendre des choses avec d'autres peut venir et nous rencontrer et potentiellement organiser un atelier sur place. Donc ça sur le cours de l'année c'est de façon ponctuelle en fait que le lieu est ouvert, et ça va de faire un atelier savon à effectivement réparer ses textiles soi-même à partager une soirée autour des questions d'énergie, gérer le jardin, etc. etc. Et puis l'été, on est plus un lieu donc, ouvert en permanence, et où là, donc, on peut effectivement donc, camper et puis, partager du quotidien avec les personnes qui sont intéressées. Voilà. Sur cette question de l'association, pour nous, ça a été la résultante d'une réflexion et l'envie de pérenniser quand même l'action. Et en même temps, il y avait vraiment ce souci que cette association, elle soit pas freinante, elle soit pas elle bride pas l'action. C'est vrai qu'on est un collectif qui fonctionne beaucoup autour du faire, du pouvoir d'agir. Et il y a vraiment cette envie que tout ce qu'on a envie de pouvoir mettre en place, en fait, le but, c'est qu'il y ait le moins de freins possible à l'action. Donc que ce soit financier, etc. Donc en fait, on a le principe de l'association, c'est vraiment de soutenir au maximum ces envies-là et de donner le moins de freins possible. Alors c'est vrai que du coup, dans la manière de le réaliser, on va beaucoup passer par de la récup, on va beaucoup passer par de l'ingéniosité, on va dire, proche de la bidouille, et avec cette envie en fait de tester par soi-même et d'apprendre en faisant. Donc en fait, dans le fonctionnement de l'asso, il n'y a pas forcément un sachant et un apprenant. Ces frontières, elles sont extrêmement floues, Et en fait, toute personne qui vient se retrouve aussi confrontée à, bah, aussi à, à ses propres peurs, à ses propres difficultés à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Puis en fait, on se rend compte au bout de 2-3 jours que ça y est, on voit apparaître comme ça des prises d'initiative. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui dit quoi faire à chaque instant. Enfin, il n'y a pas un prof. Enfin, voilà, on se donne des éléments d'entrée pour se dire bah voilà où on en est du projet, voilà ce qui pourrait être fait, etc., des possibles. Mais l'idée, c'est vraiment aussi que la personne, en arrivant, devienne vraiment un peu maître d'elle-même et puis se mette en mouvement par rapport à ce qui l'intéresse, à ce qu'elle a envie de découvrir, à ce sur quoi elle a envie de mettre la main à la patte. Voilà. Du coup, depuis... est-ce que ça a continué ? Non, ça ne continue pas à défiler. Depuis, ces 4 ans... Donc il y a eu énormément d'ateliers ponctuels qui ont pu être réalisés au niveau aussi de l'aménagement du lieu. En bas, en fait, on est donc sur un lieu qui permet l'accueil avec des sanitaires, avec une cuisine collective, etc., un poulailler. Il y a des parties jardin, et puis du coup vous avez vu la photo de la maison. Donc ça, c'est une maison qui était existante sur le terrain et qui avait une centaine d'années. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'elle était encore en matériaux plutôt naturel en fait, enfin en tout cas elle n'avait pas été dévoyée, donc elle a encore des enduits chaussables, etc. Et du coup on lui a créé une extension donc en terre paille avec une ossature en bois. On a poussé le vice jusqu'au bout puisqu'on a acheté des bois ronds dans une forêt en proximité et qu'on a équarris à la main. Donc gros temps de chantier pour nous, pour réapprendre aussi des techniques de charpente à l'ancienne. Et puis du coup, on a monté la charpente aussi, de façon traditionnelle, pour ensuite donc l'isoler en paille et enduire avec la terre du quartier, en terre paille. Donc là, la maison est en cours de finalisation. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Dans les projets qu'on a à partir de maintenant, il y a... Donc là, notre AG a lieu dans un mois et on est en train de travailler un scénario puisque, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce lieu est privé, donc il appartient à 2 personnes. Et l'enjeu pour nous, c'est de pérenniser, en fait, ce projet-là et d'en faire... Enfin, de maintenir, en fait, cette envie de collectif et du coup, aussi de réfléchir à cette question du foncier. Donc là, aujourd'hui, on est dans une grosse réflexion avec une association avec qui on est partenaire depuis un moment, qui s'appelle le MRJC et qui est basée aussi sur le lieu. Le MRJC, c'est le Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes, qui travaille beaucoup sur les questions d'éducation populaire des jeunes par des jeunes. Et du coup, on les héberge depuis 2 ans. Leurs 2 salariés travaillent sur le lieu de la gibbeuse. Et aujourd'hui, on travaille avec eux à un scénario pour qu'ils puissent entrer sur tout ou partie du foncier, pour qu'en fait ce lieu appartienne bien à des ou une structure morale et n'appartienne plus à des entités privées. Donc voilà, notre enjeu à travers cela, c'est vraiment de maintenir cette intention d'espace collectif où il est possible de faire ensemble des choses pour se réapproprier des savoir-faire de base pour nous, enfin à notre sens. Alors on a des fois tendance à être un peu... Et dans ce travail aussi du projet futur, donc il y a cette question du foncier qui pour nous est assez primordiale. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est que on a créé une maison qui va être habitable sur le lieu là. Et donc on est aussi en train de réfléchir à l'articulation entre des habitants au quotidien, une association qui propose des activités ponctuelles, des travailleurs qui sont là aussi un peu en coworking sur le lieu. Comment en fait on articule aussi tous ces usagers sur le lieu. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire et justement qui va s'affiner se valider dans le cadre de l'AG. Un des enjeux, ce serait à terme d'imaginer un fonctionnement de type AFEV, je ne sais pas si certains connaissent, donc cette idée d'avoir un loyer modéré sur l'habitat, donc une chambre qui serait peu chère, mais avec en retour en fait, des actions à réaliser sur le lieu et en lien avec le quartier. Donc en fait, l'idée, ce serait d'avoir une sorte de coloc qui permettrait d'avoir sa chambre, d'avoir un espace habitable écologique, et puis en contrepartie, de gérer en fait, un peu le gardiennage du lieu, donc avec un entretien régulier du jardin, des poules, mais aussi de pouvoir organiser des petits temps d'interconnexion avec le quartier, notamment les 3 cités, puisque ça fait partie de nos objectifs. Voilà, donc ça c'est un peu dans les visions à long terme, après ce qui a été initié jusqu'à présent. Alors là, je vous parle beaucoup du lieu et ça fait comme si c'était une petite enceinte toute autonome, peut-être même autarcique. On n'a absolument pas cette intention-là. Du coup, on cherche vraiment à travailler en lien avec les associations aussi qui sont à Poitiers, parce qu'elles sont super nombreuses en fait, les associations qui s'engagent et qui réfléchissent à ces questions-là, tout comme nous. Et du coup, régulièrement, donc, on accueille des groupes de jeunes qui, donc, sur un temps de camp d'été, ont envie de réfléchir sur ces questions et envie de mettre la main à la pâte, etc. Donc on les accompagne à créer un petit projet sur le lieu en lien avec ce qu'ils aiment faire, etc. On a aussi travaillé avec le Centre social des Trois Cités, et pour nous, c'est un partenaire qu'on a vraiment envie de continuer à faire vivre, et puis du coup avec qui on a vraiment envie d'avoir des liens. On a fait une semaine de travail avec eux sur le jardin justement avec eux l'an dernier, et il y a vraiment cette envie de continuer à connecter en fait nos projets associatifs pour que cette connexion entre le clin et la cité se fasse de façon plus prégnante. En tout cas pour nous c'est un enjeu. Évidemment aussi les autres personnes du quartier qui viennent régulièrement pour ne serait-ce que par curiosité. Et puis plein d'autres assos, comme le Petit Plateau, comme Jardin Nature, comme Un Air de Ditch, comme l'Alepa, comme Poitiers Jeune. Enfin voilà, il y a un grand nombre d'assos avec qui on crée des partenariats et on monte des actions communes. Et du coup, par rapport à ce que vous évoquez sur la portée militante, par exemple, voilà, moi j'ai l'impression qu'à travers tout ce que vous avez dit, on s'y rattache énormément à cette question de la décroissance. Et en même temps, effectivement, ce n'est pas un terme qu'on utilise, on ne se sent pas militant, décroissant quand on est gibon, parce que c'est comme ça qu'on se prénomme quand on est adhérent de l'association. Et c'est effectivement assez questionnant. Nous, notre enjeu, en tout cas celui que le conseil d'animation porte, parce que je pense que chacun vient aussi avec des intérêts très divers. Le premier, c'est vraiment de se réapproprier des savoirs de base et d'apprendre en faisant. Donc il y a vraiment ces deux entrées d'être moins dépendant finalement, peut-être effectivement d'actes de consommation, de faire avec de l'existant, donc de ne pas forcément passer par de l'achat pour réaliser. Il y a l'idée vraiment d'apprendre par soi-même et pas forcément d'attendre que quelqu'un nous transmette un savoir. Il y a aussi l'idée évidemment du collectif, dans cette envie de partager ça, plutôt dans la joie, dans ce côté un peu réjouissant que ça peut avoir, que de continuer à apprendre tout au long de sa vie et de faire des choses. Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là.
Merci beaucoup. Oui. vous avez parfaitement tenu le temps. Merci. Julie.
Alors, moi, je vais me poser un peu différemment. Parce que je pense qu'on est une alternative, certes, au système de consommation capitaliste, mais on a une notion économique. C'est-à-dire qu'on est une entreprise et qu'on n'est pas dans la décroissance, on est dans la croissance autrement. Voilà. Donc je suis Julie Renard, je suis co-gérante, associée et salariée de la SCOP Le Plan B. Le Plan B, donc, c'est un, pour ceux qui sont de Poitiers, c'est un bar. Enfin, c'est estampillé comme ça, c'est un bar qui est à Poitiers, au niveau de la gare, mais c'est aussi un système où aujourd'hui il y a 4 associés, 5 salariés, dont 4 en CDI. C'est aussi des contrats en CDD d'usage, comme on dit, extra et tout ça, qui font partie de l'équipe. Enfin, pour nous c'est important. Mais c'est aussi les partenaires qui sont les collectifs, les associations qui viennent organiser des choses, que ce soit des expos, des soirées, plein de choses. Et c'est aussi, dans le système, il y a aussi les fournisseurs qui sont aussi importants pour nous, parce qu'on propose des produits qui sont bio et locaux, et qu'on part du principe que les fournisseurs, ils font partie de nos partenaires. Voilà. Donc juste pour rappel, une SCOP. Là, nous, on est en SCOP SARL, donc on est une entreprise. Juste, c'est le fonctionnement qui est un peu différent d'une SARL classique. Ça veut dire que sont associés les salariés. Les salariés sont toujours majoritaires. Ils ont des parts dans l'entreprise, une ou plusieurs, mais dans le système de décision, tout le monde a une voix. Donc aujourd'hui, on est deux co-gérants. Après, c'est plus sur le côté administratif. Dans le système français, il faut des responsables. Voilà, donc les responsables, on est deux, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production, même si ça a changé depuis 2 ans, ils ont changé cet acronyme pour des raisons de communication, je crois, qui maintenant c'est société coopérative et participative, mais nous on tient vraiment à garder ce truc société coopérative ouvrière de production, parce que ça veut dire quelque chose, c'est du travail, et l'idée c'est que au sein de l'entreprise, ce soit les salariés qui soient au cœur de... Voilà, c'est remettre l'humain au cœur de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est des principes et des valeurs auxquelles on tient. Et voilà. Donc, pour revenir dans ce qui est aussi consommation, nous, on est un lieu de consommation, clairement, par rapport aux produits et par rapport aussi à la culture qu'on propose. Quand je dis culture, c'est vraiment au sens très large du terme. C'est que ça peut être... des débats, des rencontres, des réunions d'associations. Voilà. Pour nous, la culture, c'est au sens très large du terme, comme c'est en train de revenir sur les droits culturels. Voilà, on croit vraiment aux droits culturels. On estime qu'on est un lieu plutôt d'éducation populaire que de culture, même si pour certains, on n'est pas un lieu de culture. Nous, on le revendique, quoi. Voilà. Donc voilà, donc l'alternative, elle se pose aussi dans ce qu'on propose, les produits ou les événements culturels qu'on propose, mais surtout dans comment on le propose et comment on décide de la stratégie, hein, parce qu'il faut parler de ça comme ça, de l'entreprise. Que l'idée, c'est aussi, notre objectif, c'est de garder des emplois. Donc du coup, on est obligé de rester dans une idée de... un discours capitaliste de marge, de chiffre d'affaires, enfin, on est obligé. Voilà. Enfin, le système fait que c'est comme ça. À l'origine, en fait, en 2010, quand les deux fondateurs ont créé le plan B, c'était sur des valeurs militantes et politiques très fortes, très extrême gauche. Donc il y a eu un engouement dès le départ sur les débats et tout ça. Enfin, ça a vraiment pris maintenant, mais avec des tarifs publics très bas, mais qui fait que au bout de 3 ans, il y a eu 3 années déficitaires. Voilà, ça ne marche pas. Sur l'idée de la décroissance, oui, mais sauf qu'on a des emplois qui existent et qui doivent perdurer, donc la décroissance, elle n'est pas toujours possible. Enfin, nous, notre idée, c'est d'essayer de montrer des valeurs de consommation différentes. Après, je ne sais pas comment... Après, l'idée aussi, c'est que de produire des choses... Enfin, en termes de culturel, proposer aussi des événements qui sont un peu différents. Moi, pour avoir étudié, il n'y a pas longtemps, les programmes de ce qu'on propose, même s'il y a beaucoup de concerts... Alors ça aussi, la décroissance, on a cette question-là en ce moment, c'est que faut aussi qu'on paye correctement les artistes. Ça, c'est une notion, enfin c'est une problématique sur le. On n'a pas encore répondu à ça. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, on génère pas suffisamment de chiffres pour salarier correctement les artistes. Voilà. Donc il y a tout un tas de paramètres qui font que oui, la consommation, avoir des événements gratuits. Ou en tout cas accessible à tous, parce que voilà, il n'y a pas besoin de consommer au bar pour venir voir nos événements. Mais voilà, il faut bien à un moment qu'il y ait une rétribution des artistes suffisante. Voilà, c'est tout le système en fait qui fait qu'il y a plein de réflexions et qui sont basées sur l'économie. Enfin, voilà. Après, on a quand même un sens politique qui reste. Mais on n'a pas l'étiquette, ou pas, on a moins l'étiquette extrême gauche, mais par contre, on est politique parce qu'on a envie de changer les façons de faire. Et le fait qu'on soit une SCOP et si on arrive à avoir une viabilité humaine et financière fait que du coup on a envie que ce soit un modèle, que d'autres puissent recréer d'autres entreprises comme la nôtre, quoi. On a essayé, on sait que, enfin, on sait, il y a une autre scope à New York qui s'appelle l'Alternateur, qui est un peu similaire à la nôtre, et Lyon à La Rochelle. On a essayé, enfin, on est en relation. Après, c'est compliqué au niveau pratique parce qu'il faut trouver le temps. Voilà, mais c'est compliqué aussi pour eux. Mais on sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne globalement. Après, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué financièrement, ça c'est sûr. Humainement aussi, parce que ça demande aussi de l'investissement, que les salariés du plan B, par exemple, outre moi, ont moins de 30 ans. et donc c'est aussi un engagement financier. C'est un vrai, enfin, c'est pas seulement de l'engagement de temps, de bénévolat, c'est de l'engagement aussi financier, c'est-à-dire que les salariés mettent des billes financières, mettent de l'argent et achètent des parts dans l'entreprise. Donc c'est un engagement qui est important. Voilà. Qui est différent et important. Voilà. Après, mais on se rend compte aussi que notre démarche, on ne l'affiche pas tant que ça. On essaye de l'afficher de plus en plus. Le fait qu'on est une scop, on traîne encore cette image comme quand on est un bar associatif, ce qui n'est pas le cas. on traîne aussi cette image comme quand on a des subventions, ça n'est pas le cas non plus. Pour être très, très clair, le bâtiment appartient à la ville de Poitiers qu'on loue. Voilà, on est toujours un petit peu entre, on est un peu au milieu de tout, en fait. C'est un peu ça, moi, ce que je dirais de l'alternatif, c'est qu'on ne rentre pas dans des cases. Et c'est très compliqué, notamment pour les collectivités. C'est que le fait d'inventer toujours, eh ben, on n'est pas dans les cases et la politique ne suit pas. C'est-à-dire que moi, à mon sens, le politique devrait être là pour appuyer les initiatives de la société civile, mais sauf qu'ils sont un peu trop lents et que voilà, eux, ils fonctionnent par cases. Et voilà, nous, on est une entreprise, on est collectif, hein, on fait de la culture, mais on n'est pas financé parce que donc du coup pour eux, on fait pas de culture. On est dans leurs locaux. Enfin voilà, par exemple pour la ville, c'est très compliqué. Ils comprennent pas du tout comment on fonctionne et voilà, et je pense que c'est un des problèmes, moi, à mon sens politique, c'est que les politiques devraient s'emparer de ce genre d'initiative, mais comme la JBE, c'est pareil, enfin, ils devraient suivre, et ça ne suit pas. Voilà.
Un mot peut-être sur la MAP. Ouais.
La MAP, oui. Après, bah, ça a été dès le départ, en fait. Après, la MAP, elle vient chez nous. Tous les jeudis soirs, on est. Après, c'est plus en termes de lieu. En fait, on est le lieu repère pour la distribution des paniers de la MAP, du NAMAP. Après, dans l'idée aussi de consommer différent, on accueille la ruche qui dit oui, en sachant qu'on se pose de plus en plus de questions sur l'idée de la ruche qui dit oui, parce que ça reste l'ubérisation de la consommation différente. Enfin, je ne sais pas si les gens connaissent la ruche qui dit oui, mais. Donc voilà, est-ce qu'on rentre là-dedans ou pas? Autant la MAP, il n'y a pas de problème. Enfin, ils sont là depuis le début et puis voilà, on les soutient et puis enfin, il y a un vrai partenariat. La ruche qui dit oui, on se pose des questions. Voilà.
Sont eux qui vous ont contacté, c'est ça?
Oui, en fait, ils cherchaient un lieu et puis vu qu'on avait la MAP, ils sont venus et voilà, c'est le mardi. L'idée de la ruche qui dit oui, c'est ça, c'est que ça enlève les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, mais il n'empêche qu'entre les deux, il y a une plateforme numérique et il y a quand même un intermédiaire qui se sucre au passage. Bon, voilà. Je l'ai fait court, mais c'est un peu ça. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres...
Sur le long terme... quels sont les projets? Est-ce que ce que vous attendez, c'est que se développe justement tout un maillage, tout un réseau de coopératives. On parlait tout à l'heure de Niort, mais il parlait de Mel aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut densifier ces contacts-là ?
Oui, les densifier, on pourrait. Après, là, pour le coup, c'est une question de temps, mais voilà, on se tient au courant aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a des cycles. C'est-à-dire que l'investissement que ça demande aux gens, aux salariés, par exemple, du plan B, il y a eu pas mal de turnover parce que c'est épuisant aussi comme rythme. Hein. Le rythme de travail est quand même compliqué parce que ça, là, pour le coup, c'est pas parce que c'est une scope, c'est parce que c'est un bar, un travail de nuit et tout ça. Voilà, c'est valable partout. Mais on se rend compte qu'il y a des cycles. Voilà. Et on s'appuie là-dessus, on se téléphone, on se tient au courant de comment, où est-ce qu'eux, ils en sont. Je sais que Niort, c'est compliqué. En plus, c'est compliqué avec la ville. Enfin, voilà, il y a aussi que Lyon, ils sont aussi en fin de cycle parce que, comme le plan B a pu le vivre, c'est-à-dire que les deux ou trois initiateurs du projet... ils ont envie de faire autre chose. Enfin, voilà, il y a aussi faire perdurer le projet et l'entreprise. Donc, du coup, voilà, on échange beaucoup là-dessus. On aimerait bien aussi, même si ça se fait un petit peu, d'avoir des échanges, notamment en termes de programmation, voilà, de faire venir des groupes. Ils jouent le jeudi chez nous, le vendredi à Niort, enfin, ou à La Rochelle. On aimerait bien aussi mettre en place des achats groupés. Par exemple, on se rend compte qu'on achète tous, puisque le sirop bio, il n'y a qu'un fournisseur en France, et que du coup, si on est trois ou quatre à acheter, notamment avec Mel en plus, ben, ça sera moins cher. Enfin, voilà. Mais il n'empêche qu'on reste dans de la consommation et dans des systèmes capitalistes de marge. Voilà. Enfin, on n'en sort pas. Enfin, et on ne peut pas en sortir. Parce que du coup, parce que au sein de l'entreprise, il y a les salariés et que c'est ça notre activité, c'est de faire perdurer un système différent sur le fonctionnement et sur les prises de décision, mais sauf que ça reste un système économique.
Une dernière chose, il y a eu deux étapes dans la vie du plan B, et le public a changé aussi.
Oui.
Et donc, vous adressez peut-être pas à ce public de la même manière qu'au début.
Non. Après, c'est une question de génération, je crois. En 2010, quand ça s'est ouvert, je crois qu'il y avait une forte attente d'une proposition différente. Donc, il y a eu un engouement pour le projet. Après, ça s'est un peu essoufflé. Et qu'effectivement, sur la deuxième partie de l'histoire du plan B, c'est une nouvelle génération qui est arrivée. Donc, qui avait d'autres envies, qui n'avaient pas les mêmes codes non plus, je crois, vraiment, politiques notamment, enfin, moins étiquetés, je dirais, un sens politique de la société, mais vachement moins étiquetés qu'avant. Et que pour eux, ils appréhendent la politique différemment, c'est notamment dans leurs actions, comment ils font. Par exemple, si je parle féminisme avec mes associés qui ont moins de 30 ans, pour eux, c'est évident. C'est évident que... Alors que, ben non, en fait, ça ne l'est pas, mais, enfin, voilà. Après, dans les propositions culturelles, aussi, enfin, les événements, par exemple, moi, je me suis rendu compte que les événements qu'on peut faire, les gros événements, les grosses soirées, c'est toujours contre une domination ou contre une discrimination. Voilà, ce qui se faisait moins avant. Avant, il y avait des débats... pour la place de la femme. Aujourd'hui, on fait des soirées avec des DJ femmes. Voilà. Et donc, la culture, elle passe, elle est insufflée d'une autre manière. Mais ça reste des démarches politiques. C'est plus de la même forme, mais voilà, le côté politique, il est toujours là.
Merci beaucoup.
De rien.
Bien, donc on va donner la parole aux représentants de Cultivons la biodiversité, Jackie Debin et Alain Sillard.
Oui, bonjour, nous on n'est pas dans notre milieu naturel, là vraiment, la ville c'est pas notre fort, la décroissance, peut-être, on ne sait pas, on ne se pose pas la question, c'est pas le centre de nos préoccupations, on va dire, quoi. On y arrive indirectement, mais... C'était pas, au départ, on vient du milieu agricole, du milieu productivisme. Hein, y a pas de, et je parle du départ des groupes. Nous, on est issus des groupes CIVAM. Les groupes CIVAM, c'est des groupes qui réfléchissent à l'alternative agricole. C'est réfléchir, c'est une alternative, c'est qu'ils sont au sein du système, quoi, et ça marche pas. Et on est venu un peu, pas par hasard, faut pas non plus, parce que politiquement, même si on est apolitique, on n'est pas complètement neutre, on est venu surtout pour une réflexion, on voulait apporter, enfin, nous apporter à nous-mêmes en premier, mais toute une réflexion sur l'autonomie, et là, après, dans le faire, devenir autonome, quoi, hein, dans toutes les décisions, ça c'était le plus facile, et dans tous les actes qui, de production, parce qu'on avait des fermes, et voilà, on pouvait avoir des idées, mais il y avait... il fallait gagner au moins 1 euro à la fin de l'année, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Autrement, on ne retourne pas l'année suivante. Donc, c'était des groupes pas spécialement bio ou non bio. C'était pas le critère d'entrée dans les groupes CIVAM. C'était plus comment on peut produire autrement. Et moins être encadré par le système, parce que là, on connaît bien le système. On en parle à longueur de temps dans les journaux, et ça, c'était dans les années 80. Quoi. On a commencé à vouloir adapter des semences à nos techniques, c'est-à-dire réduction d'intrants. Quand on parle d'intrants, nous, on parle effectivement de produits phytosanitaires chimiques ou non, d'engrais chimiques ou non, d'eau ou pas d'eau. Les intrants, c'est tout ce qu'on se sert, ou pas, en permaculture on ne s'en sert pas, pour faire pousser des plantes ou pour élever des animaux. Quoi. Donc c'était un peu dans cette réflexion-là qu'on était, et on butait un peu sur les semences, parce que quand on vous donne une semence sélectionnée qui est la meilleure du monde, elle reste la meilleure du monde que si vous lui apportez les mêmes conditions pour lesquelles elle a été sélectionnée, autrement ça ne marche pas. Quoi. Si vous lui dites un maïs qui fait, admettons, 140 quintaux irrigué, et que vous voulez le passer en bio non irrigué, il ne vous fait rien. Voilà quoi. Il faut adapter. Mais entre autres sur le maïs, c'est pour ça que je prends cet exemple, on pouvait petit à petit adapter certaines plantes. Le maïs, on l'achetait tous les ans. Quoi. Donc on a commencé à réfléchir sur l'autonomie sur les semences. Et là, c'était à partir de 2003 qu'on a acquis les premiers maïs, et qu'au bout de 4-5 ans, on s'est aperçu que c'était un monde qu'on redécouvrait, parce que les semences, elles viennent tous de chez les paysans. Elles nous ont été accaparées dans les années 50 et mis... l'industrie semencière n'a pas inventé les semences, hein. Elle les a seulement adaptées à ses propres besoins, et ses propres besoins, c'était de faire du profit, c'était pas de nourrir la planète. Voilà quoi. Donc petit à petit, on a pris conscience de la problématique des semences au niveau des nous individuellement, au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de la législation, qui restreignait cette... En France, on a le droit de semer 21, de ressemer 21 espèces, point. Le reste, c'est la loi, on est obligé de le rester. Et il y a même dans ces 21 espèces, le blé, par exemple, on est obligé de s'acquitter d'une COV, d'une contribution obligatoire volontaire. Ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà quoi. Et ça, si on l'achète dans une coopérative, ça nous est retenu sur le prix d'achat de nos semences, quoi. Donc le système était relativement cadré, quoi. Donc on a de plus en plus réfléchi la problématique semences au niveau individuel, au niveau collectif, législatif. Et dans les groupes CIVAM, on a dit, de la Vienne, on a dit qu'il faut qu'on s'organise sur cette problématique-là. Il y avait des agriculteurs bio qui travaillaient sur les blés boulangers et qu'on travaille, monter une association qui ne travaille que sur la semence et les problématiques semences pour l'agriculture. On a vite appréhendé qu'au niveau mondial, il y avait beaucoup de monde qui était aussi sur cette problématique parce que au niveau mondial, 4 firmes maintenant. Avant, elles étaient 5, mais comme il y en a une qui a racheté l'autre, ben, elles ne sont plus que 4. Contrôlent plus de 50% des semences dans le monde. Donc l'alimentation au niveau mondial, ça c'est... Et il y a des pays où le droit à ressemer leur propre semence est même un délit, quoi. C'est devenu un délit en Amérique du Sud. Il y a des paramilitaires qui passent et qui détruisent les semences suite à un accord avec le Pérou, la Bolivie et puis les États-Unis. C'était dans l'accord. Ils doivent racheter leurs semences. Maintenant, ils n'y comprennent rien. Et puis, quand on leur interdit de ressemer ce qu'ils avaient avant, et c'est relativement violent. Nous, en France, on n'en est pas là. Ce qui nous a fait prendre conscience vraiment de l'intérêt de la semence, c'est les OGM, quoi. L'arrivée des OGM, on s'est dit, là, c'est le packaging, il est très bien fait, quoi. D'accord ou pas d'accord, t'es obligé de pas, tu peux rien faire d'autre que même la nouveauté des OGM, c'est qu'avant, les semences poussaient avec des intrants, mais là, l'intrant était directement lié à la firme qui fabriquait l'OGM, quoi. T'avais même plus le choix, quoi. C'était ça. C'était l'intégration de l'agriculture par l'industrie, c'était clair. Donc petit à petit, on a appréhendé cette problématique-là et on travaille au niveau local avec des groupes d'agriculteurs. CBD, c'est sur 4 départements en Poitou-Charentes, les anciens départements de Poitou-Charentes. Il y a 97 agriculteurs, je crois. Je lis bien. Et à partir des années 2000, on a décidé d'élargir la problématique aux jardiniers amateurs, au grand public. Et maintenant, on est maraîchers, oui, non, mais étaient déjà dans la classe agriculteur, les maraîchers, aux jardiniers amateurs et hors profession agricole. Et bon, ça. Parce que de fait, c'était le consommateur qui était directement visé à la fin, quoi. Donc il y a 223 au décembre 2016, en tout on est 320 actuellement, qui travaillons que sur la problématique semences avec un engagement plus ou moins grand, quoi. Il y a des gens qui adhèrent par solidarité, d'autres qui adhèrent, c'est carrément un deuxième métier, quoi. La particularité de CBD, c'est qu'on fournit les semences, on fournit le savoir-faire qu'il a fallu aller rechercher où il y en avait encore. On travaille avec les chercheurs. CBD, c'est un peu le croisement de plusieurs cultures, culture paysanne et culture scientifique. On participe à des programmes de recherche participatifs. C'est assez nouveau dans le monde agricole, même dans le monde recherche en général, quoi. C'est pas le plus commun. Sur la problématique semences et l'accessibilité par les paysans en particulier, mais par le consommateur final au droit, au choix de son alimentation, quoi. Petit à petit, avec le groupe jardinier, on a continué ce qui était dans pour le milieu agricole. Il y avait déjà un début de réflexion sur le sol, sur bio, non bio, permaculture, non labour, et toutes ces notions-là étaient abordées. Nous, notre travail au sein de CBD, c'est d'adapter les plantes en fonction des formes d'agriculture ou de culture que les adhérents mettent en place, quoi. Ça peut être, on a eu des irrigants c'était pas la majorité de nos adhérents, c'était sur le principe on voudrait désintensifier l'eau. Donc on estimait que ça pouvait se tenir quoi, dans notre travail. C'est pas là qu'on a le mieux réussi. Quand on parlait de productivisme, on avait une critique au sein du productivisme, c'était qu'on ne parlait que de volume, on ne parlait pas de qualité. De plus en plus dans les semences, on ne s'occupe pas des rendements, on ne s'occupe plus des rendements, on s'occupe de ce que ça apporte à l'animal ou à l'humain, ce qui est sa richesse en telle et telle. Ou quand on travaille les blés paysans, pour les boulangers, ils s'intéressent beaucoup, moi c'est pas mon domaine, mais ils s'intéressent beaucoup au gluten, non, acceptable ou pas. L'intolérance au gluten est très liée au blé moderne, mais pas au blé ancien, par exemple. Quoi. Alors on a une notion de, quand je parle de blé ancien, c'est qu'on était bien obligé de partir sur un capital, quoi. Et ce capital, il existe dans les légumes, dans les plantes qui ont été sélectionnées de génération en génération, de légumes et de blé, de maïs anciens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le capital génétique pour refaire soit continuer ce légume-là, ou carrément refaire en maïs, on refait des populations actuelles. Et c'est les plus modernes du monde parce qu'on les sélectionne tous les ans. Donc, quand on ressème une semence, c'est celle de l'année dernière qui va évoluer petit à petit. Et ça, c'est un savoir-faire qu'on a acquis collectivement. Il ne m'appartient pas. Tout ça, je ne l'aurais pas redécouvert, mais je n'aurais pas pu. Mais aussi bien avec le savoir-faire paysan et de certains agronomes et certains chercheurs qui veulent bien travailler avec nous. Ce n'est pas la majorité. Il y en aurait un dixième, ce serait bien. Voilà. Parce que les budgets de la recherche viennent essentiellement du privé. Et donc, le privé n'a aucun intérêt à financer nos recherches. Quoi. Voilà. C'est pas pour ça qu'on n'est pas financé hein, par rapport au plan B. Nous, on est une association relativement privilégiée de par sa non-appartenance au milieu agricole. Et aussi bien la région que les collectivités. L'ex-région, la nouvelle, c'est plus délicat. On ne sait pas. Ou si on sait, mais voilà, ça reste à négocier. Il y a un certain nombre de collectivités qui ont une vision agricole autre que la vision dominante. Quoi. Donc ils trouvaient que ce qu'on faisait, c'était peut-être pas parfait, mais ça allait dans leur sens. Quoi. Après, au niveau des jardiniers, on est un sous-groupe. Il y a deux groupes de jardiniers, mais les jardiniers sont un sous-groupe de CBD. Et là, on est complètement autonome de notre... on peut donner libre cours à notre imaginaire parce qu'on n'est pas sous la contrainte économique. Là. Après, donc, on a un certain nombre à être relativement férus, je ne sais pas, mais... à savoir adapter des plantes à différentes conditions. Maintenant, c'est un savoir-faire qu'on a, qu'on fait partager. Et le premier des savoir-faire qu'on veut faire partager, c'est de réapprendre aux gens à refaire leurs propres semences et à ne plus dépendre des semences, y compris de gamme vert ou trucs comme ça, qui sont de toute façon des filiales des grandes boîtes. Il y a très très peu de boîtes indépendantes. On pourrait citer Germinance, Biogerme, Ferme de Sainte-Marc, Cocopelli est très lié au marché américain qui est très libéral, donc on a un peu essayé de savoir à qui appartient Grain del Pays. Mais il y a une dizaine de petits semenciers, autrement les autres semenciers connus sont tous liés d'une façon ou d'une autre à un groupe. Ce qu'on partage pas trop, parce que c'est pas qu'on soit spécialement contre les gros groupes et contre l'argent, c'est pas notre préoccupation, on est toujours pour quelque chose, nous. Hein. Les OGM, on n'est pas contre, mais on peut pas vivre à côté d'OGM. donc on a tendance à les couper. Parce que si nos mails sont pollués par les OGM, on ne peut plus les ressemer. C'est tout simplement comme ça. Et on disait aux Brésiliens, pourquoi vous ne faites pas la même chose, quoi. Ils nous disaient, c'est que nous, c'est grand. Alors, on leur a répondu, vous êtes plus nombreux que nous. Alors, il ne doit pas y avoir de problème, quoi. C'est une question de... Mais ce n'est pas encore entré dans la morse. Si je parle des Brésiliens, c'est que l'une des activités de CBD, c'est aussi d'être en réseau au sein du RSP au niveau de la France. Ça, c'est relativement simple pour le gouvernement.
Réseau d'espèces paysannes, RSP.
Oui, c'est évident.
Ce qui va de soi va encore mieux viser.
Et au niveau, on a beaucoup de contacts au niveau international où les problématiques se posent d'une façon différente, mais qui est toujours la même logique, c'est de déposséder le paysan de sa semence. Quoi. C'est, je sais pas pourquoi, le capitalisme, il supporte pas que les autres vivent à côté de lui. Il faut passer par lui. Quoi. Et là, il y a un gros travail à faire au sein d'un traité qui s'appelle la TIRPA, peu importe, au sein de la FAO, qui est un organisme directement lié à l'ONU. Donc, on peut influencer, c'est pas nous qui commandons vraiment, mais et mieux appréhender comment les grandes semences se partagent et on est le gâteau et comment nous, à notre niveau, on peut réussir à mettre un petit grain de sable, un petit quelque chose. Le plus grand succès, c'était sur les différents traités sur la biopiraterie au niveau des firmes pharmaceutiques. Et petit à petit, ça avance sur d'autres sujets. Et même si le droit international serait plutôt favorable aux paysans, et là je parle de paysans, plus d'agriculteurs, la mise en œuvre est encore délicate dans tous les pays. Donc on en a CBD encore une utilité sur dans les 100 années à venir. Je crois qu'on en sera encore là à la vitesse où ça avance. Quoi. Voilà quoi. On n'est pas habitué à faire des conférences, hein, c'est la première, peut-être la dernière, c'est vous qui allez décider. Par contre, question-réponse, oui, ça marche mieux. Quoi.
Oui, oui, non, au contraire, c'était très bien. Vous m'avez dit aussi que CBD fait partie du réseau des semences paysannes, oui. Et que vous avez, à travers le réseau des semences paysannes, une influence sur le ministère de l'Agriculture.
Enfin, la possibilité, une influence, en tout cas. On est interrogé sur la question des semences par la commission agricole qui a en charge cette question. On a surtout été interrogé par une commission qui s'appelle, je ne me rappelle plus trop comment, mais pour que la lutte contre les contrefaçons, ça n'est pas très bien pourquoi nous poser cette question-là au départ, quoi. Mais les firmes considèrent que quand on fait nos propres semences, on fait de la contrefaçon. Et c'est pour ça qu'on a été expliqué notre point de vue aux différents députés qu'on est obligé d'admettre que c'est une question un peu subtile, qu'ils ne connaissent pas, c'est pas courant. Donc, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils étaient assez ignorants en dehors des... d'Europe Écologie qui était plus sensibilisée à la question de la semence, mais autrement les autres étaient assez surpris qu'il existe encore des gens qui faisaient leurs semences et qui voulaient une loi toujours dans la position, on n'est jamais contre rien, mais nous on veut une loi pour protéger nos semences et pour protéger notre savoir-faire, quoi. Ça n'a rien contre les grandes firmes, ils font ce qu'ils veulent dans leur cours, mais dans notre cours à nous, et c'est pour ça qu'on monte des maisons de la semence, c'est nos semences, et bon, voilà. Jusqu'à maintenant, ils ne nous ont pas demandé de les rendre, mais ce sera très très dur, quoi. Ce sera très très dur.
Merci beaucoup.
Peut-être parler, oui. Juste sur un plan un peu concret. Pour que vous ayez une idée de notre action, bon, moi je vais parler que pour les jardiniers, je suis un jardinier apprenti ça fait à peu près 3 ans que j'essaye de faire pousser des trucs.
Apprenti amateur,
volontaire mais non obligatoire. Et donc ce qui se passe, on est présent dans le plus grand nombre possible de foires, enfin de troc-plans, etc. De la région, tant qu'on peut y aller, parce que on n'est pas non plus une armée très très nombreuse, mais enfin il y a quand même du monde. Et le principe, c'est qu'on a donc cette espèce de fond de semences qui concerne tous les légumes que vous pouvez manger et beaucoup de ceux que vous ne mangez peut-être pas encore. Et donc les gens qui adhèrent peuvent choisir 5-6 sachets de graines. Ces graines provenant de ce qui a été récolté par les adhérents et de ce qui a été aussi certifié, donc une traçabilité des graines, hein, tout simplement les initiales de Jackie Debain, J-Dub. Et donc on peut savoir si par exemple il y a toute une partie qui n'a absolument rien donné en graines, ben on va pouvoir se poser la question de ce qui s'est passé. Donc on donne les gens prennent quelques graines et ils prennent l'engagement de, s'ils le peuvent, ça n'a rien de coercitif, hein, s'ils le peuvent, de rapporter des graines après qu'ils auront produit leurs propres légumes et consommé, parce que le but c'est quand même l'échange, hein, et ça c'est gratuit, enfin il y a une adhésion, mais c'est tout quoi, on est plutôt dans l'échange. Donc ils rapportent, il y a une journée d'échange de graines qui se fait tous les ans actuellement à Montreuil-Bonnin. Et les gens rapportent les graines qu'ils ont pu récupérer, ça re-rentre dans le pot commun, et comme ça, ça tourne. C'est-à-dire que, et de plus en plus, alors on essaye de leur apprendre comment récupérer les graines dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas de mélange, les risques d'hybridation et tout ça, on rentre dans des choses un peu techniques, enfin c'est bien réel. Et ce qui fait qu'on a un fonds qui est toujours entretenu et qui tourne régulièrement. Et donc concrètement, c'est ça. Et puis après, il y a une fête des cueilleurs de la biodiversité, ça rejoint le groupe des agriculteurs. Et là, il y a quand même pas mal. C'est très convivial. C'est-à-dire que quand on fait des réunions, il y a toujours un repas, c'est un peu comme les Gaulois, vous savez, il y a toujours un repas, soit à midi, soit le soir, les gens apportent ce qu'ils veulent. Ceux qui participent régulièrement aux réunions, c'est quand même une bonne bande de potes, quoi. Moi, j'y suis que depuis 3 ans, mais alors, c'est le bonheur. Et il y a beaucoup d'échanges, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de pratiques, de savoirs, de trucs entre guillemets, quoi. Et donc, on s'enrichit à chaque fois qu'on est à ces réunions. On s'enrichit vraiment pour pouvoir améliorer nos pratiques culturales et pour pouvoir continuer à faire ça.
Voilà. Juste une petite chose sur l'enjeu de la biodiversité. CBD, voilà, cet objet de favoriser la biodiversité.
On ne s'occupe que de la biodiversité cultivée. Mm-hmm. Le reste, c'est très lié d'ailleurs. Hein, on a des... On a des interrogations qu'on n'arrive pas à résoudre d'un point de vue scientifique. Une souris ou un rat se trompe pas entre un maïs population, je lâche le terme, et un maïs hybride. Ils préfèrent les maïs population. Les animaux d'élevage aussi. La qualité, moi j'étais fromager, la qualité différente. La qualité des fromages était différente. Les pains sont différents. Bon, je ne sais pas si on va rentrer dans des notions plus techniques, mais plus la génétique est diversifiée dans un même milieu, plus c'est stable et moins, là on rejoint la permaculture, et moins on a d'interventions à faire avec... on en est au balbutiement, on ne donnera pas de cours, on sait assez bien comment obtenir un sol vivant, ça c'est purement technique. Après, pour adapter les graines, enfin les plantes à ce sol, ça, on sait faire aussi. On sait faire de la sélection massale. On sait faire de la sélection par le goût. Il n'y a pas de problème. On sait sélectionner toutes les plantes. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est marier les plantes. Hein. Marier les hommes, ce n'est pas facile. Mais les plantes, c'est encore plus complexe. Hein, parce que... voilà, quoi. On en est là. Pour un petit groupe de jardiniers, ouais, on en est là. C'est pas le centre des débats au sein de CBD, des actions au sein de CBD, mais il y a des liens directs sur le sol entre nous, ce qu'on peut faire dans nos jardins, à la grande culture, quoi. Ce qu'on voit, un sol vivant, qu'il soit, peu importe où il est, ben c'est les mêmes règles, quoi. C'est au moins les mêmes constats qu'on puisse. On peut même le mesurer au niveau du nombre de bactéries, le nombre de vers de terre, est-ce qu'il y a des champignons entre parenthèses ou pas, etc. etc. Ça, vous envoyez votre terre à Bourguignon, il vous répond sur 3 feuilles. Hein, il n'y a pas de problème, c'est purement technique ça. Après, tout ce qui est. On discutait avec les Mexicains, par exemple, parce qu'on parle toujours de la milpa. C'est des maïs, courges et haricots. Et ils font ça depuis des millénaires. On s'est vite aperçu qu'ils faisaient ça depuis des millénaires dans le même cercle, mais en changeant continuellement de terrain. C'est quand même pas une technique qui est très agressive pour l'environnement. La preuve, c'est que depuis 2000 ans, ils y arrivent quand même, quoi. Donc, c'est un peu dans ce concept-là qu'on peut aussi sélectionner des plantes qui se.
Mais de l'autre côté, les hybrides, les graines hybrides qui sont imposées donc par les quatre dominants sur le marché, ont tendance à rendre les sols plus pauvres, c'est ça, et à vous placer sous la dépendance.
Les hybrides, oui. Le premier avantage pour celui qui l'a conçu, c'est qu'on est obligé de le racheter l'année suivante. Ça, c'est la règle. On ne peut pas ressemer un hybride. On peut ressemer un hybride. Hein, ça va lever. Mais certains OGM, ils avaient même été jusqu'à. Enfin, ce n'est pas passé au niveau des lois, mais Terminator, ils voulaient introduire un gène. Où là, ça ne germait pas. Les OGM, Rogem, c'est même leur inconvénient. Les Mexicains se plaignent beaucoup des. Eux, ils n'ont pas acheté de maïs OGM et ils se retrouvent à avoir des OGM dans leur champ. Ils ne savent pas trop comment. Mais ils repoussent les OGM. Sauf qu'ils n'appartiennent pas aux paysans. Ils appartiennent à la firme qui a conçu les OGM. Et même. Il y a un agriculteur canadien qui a été en procès avec Monsanto, je crois, et qui a perdu parce que lui a prouvé qu'il n'avait pas piqué de colza et Monsanto à son voisin, mais il y en avait dans son propre colza. Donc la récolte appartenait à Monsanto. Point.
Merci.
C'est entre autres pour ça que des traités comme la TIRPA et tout ça, c'est pas de notre domaine, mais quand on peut donner notre avis, on le donne. Quoi.
On peut peut-être passer aux questions et au débat.
Dans l'introduction universitaire, il y avait donc la déclinaison de trois faire, faire moins, faire soi-même et faire sans. Et dans les échanges démarrés par Louise, apparaissait une version complémentaire qui est faire avec. Et quand on parle d'alternative, qui est un mot que j'aime pas trop parce qu'alternative, d'après le dictionnaire, c'est dual. Il n'y a qu'une alternative alors qu'il y en a plein. Et être alternatif, pour moi, ça serait d'aller manger au McDo. Donc, c'est un peu limité comme repère. Faire avec, et faire avec, ça peut être contre quelque chose, contre les OGM, mais ça peut être par rapport à un enjeu des règlements climatiques, par exemple, les enjeux climatiques, ou... par rapport à la. Alors, soit plus positivement pour la préservation de ce qu'on appelle un peu les communs, et Thierry, qui est peut-être par là, pourrait en parler, ou pour éviter la privatisation du vivant, dont vous abordiez un tout petit peu le sujet, Jackie et compagnie. Jackie, tu disais qu'il y a 4 multinationales qui contrôlent 50% des semences en général dans le monde, mais les semences potagères sont contrôlées à 80% par ces firmes multinationales. Et un truc qui permet, tu disais, Jackie, aussi que financer de la recherche de terrain avec des gens de l'INRA éventuellement en partenariat avec des agriculteurs, ça n'intéresse pas les multinationales. Mais la contradiction, c'est que la COV, la contribution obligatoire et volontaire, donc c'est rigolo, obligatoire et volontaire, hein, mais la contribution obligatoire et volontaire qui est versée par tous ceux qui, agriculteurs et autres qui produisent, elle est versée dans une cagnotte qui est à disposition des firmes privées, des multinationales de la semence. Donc d'un côté, ils ne veulent pas aider à au financement de recherche avec des paysans, mais ils profitent de l'argent, des cotisations de ces paysans-là. Et pour comprendre un petit peu l'enjeu de la privatisation du vivant, entre autres, les firmes qui produisent des semences dépensent pas mal d'argent et il faut une dizaine d'années pour obtenir une nouvelle semence, une nouvelle variété, hybride en général, presque toujours. Ça, ça ne paye pas vraiment. Ce qui paye, c'est de vendre des pesticides. Et la grande, grande majorité des firmes qui produisent des semences sont des filiales de celles qui fabriquent les pesticides. Et quand on fabrique une semence pour vendre des pesticides, oui, quand on est une boîte qui veut faire de l'argent, eh ben, on va mettre sur le marché une semence qui sera peut-être plus productive, mais qui aura une faiblesse par rapport à une maladie, par rapport à un insecte, parce qu'elle a la peau très fine et que l'insecte va pouvoir vite picorer dedans pour faire son gueuleton. Et ça, ça intéresse beaucoup la firme phytosanitaire parce qu'elle pourra vendre le complément en pesticides. Voilà. Donc la privatisation du vivant, l'enjeu est majeur à ce niveau-là. Il y a une banque de semences qui est congelée dans le nord, dans le Spitzberg. Ce qui est intéressant de savoir, c'est, bon, déjà c'est une banque de semences au froid et qui ne sont pas cultivées tous les ans, mais qui a les clés de cette banque-là?
C'est ce que je voulais dire, t'as les
qui a les clés? Monsanto a entre autres un des trousseaux de clés d'entrée dans cette banque, et monsieur Bill Gates a aussi un trousseau de clés, en prétendant qu'il est là avec sa petite fortune pour aider à sauver le monde par rapport à l'alimentation. L'enjeu, il est là. Et ce que fait CBD, cultivant la biodiversité, c'est de mettre en valeur toutes les variétés locales, régionales qu'il y a. Alors ce que tu as failli dire, Jackie, c'est qu'une semence hybride, l'avantage, c'est qu'on la sème à telle date et qu'à telle autre date, X mois après, tous les épis seront bons à récolter. Donc on peut passer à la machine, à la mécanisation. Alors qu'une semence, voire un mélange de semences de blé intéressant pour la panification, eh ben, il y a des blés qui feront 2 mètres de haut, il y en a qui feront 1 mètre, mais les paysans boulangers qui en cultivent avec plusieurs variétés dans le même champ, mélangées, ben, disent ben, on trouve un compromis pour la récolte et on a des pains que les gens veulent absolument manger. Donc il n'y a pas que la productivité, le rendement à l'hectare, mais il y a aussi le goût, le plaisir.
Là, tu tombes sur un circuit relativement court. Les semences industrielles sont faites pour le système industriel de filière. C'est-à-dire que ce n'est pas le paysan qui va faire la farine, ce n'est pas le meunier qui va faire le pain, et ce n'est même pas le boulanger qui va faire sa pâte, quoi. Donc, il faut que les semences s'adaptent à ce système-là. Dans le système très en circuit court, là, les agriculteurs ont beaucoup plus leur mot à dire, quoi, dans le produit final, quoi. Même pour on est avec le maïs, on a beaucoup d'éleveurs qui veulent du maïs parce que directement ils ont la santé de leurs animaux. Quand tu es fromager, tu as directement la qualité du fromage à la fin, quoi. Mais dans un système classique de vente à la coop ou n'importe où tu es que producteur de matières premières, tu vas réagir que au kilo, au volume, quoi. Enfin, ouais, parce que tu es payé là-dessus. Et que, comme pour le plan B, voilà. T'as T'as beau avoir des idées, il faut un moment que ça rentre dans des règles économiques, ce qu'on n'a pas avec le système jardinier. Nous, on peut très bien inventer, c'est ce qu'on est en train de faire, inventer à Radis parce que ben, ça nous fait plaisir. Point final, quoi, ça nous fait plaisir. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit bon et qu'on mette 2 ans ou 3 ans à le faire et qu'on passe un bon moment à le faire, ensemble à le faire. Alors, donc, ce n'est pas les mêmes critères, quoi. Quand tu parlais de la mainmise des firmes sur les semences potagères, tu oublies qu'il y a une bonne partie du monde, c'est quand même qui sont restés dans le système paysan, pas agricole, mais dans, c'est-à-dire qu'ils produisent d'une alimentation avant tout pour eux-mêmes, ils mettent sur le marché que le surplus, et souvent eux n'ont. Les semences du commerce, ou comme disait une indienne, les semences d'État, correspondent pas à leurs besoins, ils ont déjà leurs propres semences, quoi. Et mais c'est, notre action, c'est aussi de les de montrer leur existence, que c'est quand même on va dire 40% de la population qui vivent sans le commerce international, sans l'industrie productiviste qu'on connaît, quoi. Et eux, on a beaucoup de mal à ce que ils aient le droit de garder leur propre semence, quoi.
Est-ce que vous avez développé un système de protection légale de votre travail, pour le coup, et de vos semences? Je fais un parallèle un petit peu avec ce qui s'est fait autour du logiciel libre, où les développeurs avaient à subir les licences de Microsoft ou autres qui interdisaient plein de choses, de reproduire, etc., de diffuser, de revendre, etc.
Oui, oui.
Et ils ont développé un système qui autorise au lieu d'interdire, quoi. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de comme ça ?
Actuellement, c'est une réflexion, hein. La première des protections, c'est qu'on fait des banques de semences un peu partout. Là, comme je disais au départ, il faudra qu'ils les trouvent et qu'ils viennent les chercher. Ça risque de poser un problème, même s'ils nous demandent de les ramener. Soit ils estiment que ça existe et on demande qu'ils légifèrent positivement, soit ça n'existe pas et on n'est pas hors la loi, quoi. Mais ça, ça ne se pose pas en jardinier amateur. On a toujours le droit, actuellement, mais c'est une loi peut évoluer dans un sens ou dans un autre, hein. C'est pas gravé dans le marbre. Mais normalement, tout ce qui est pas ce qui rentre pas dans le système marchand, bon.
Je sais pas, est-ce qu'il y a des juristes qui ont travaillé là-dessus, sur ce parallèle-là,
oui,
en essayant de développer justement vos propres contrats ou
mais
vos propres
par définition, nous, les semences, ça appartient à tout le monde. Donc c'est assez difficile d'un côté de dire que ça appartient à tout le monde, mais qu'un tel et un tel n'ont pas le droit de s'en servir, quoi.
Non, c'est l'inverse, justement. Ouais, c'est développer, voilà, comme l'ont fait les développeurs de logiciels libres, c'est de détourner le droit, en fait, pour complètement contrecarrer une perspective d'appropriation. Donc, c'est-à-dire
nous,
que
vous
développez
des
licences qui autorisent.
Les firmes qui utilisent notre matériel génétique, qui n'est pas. Quand je parle de notre matériel génétique, c'est le matériel génétique qui appartient à l'humanité. Ben, il faudrait qu'ils, s'ils ne veulent pas respecter les besoins de cette humanité, qu'ils aient au contraire une taxe, quoi. Pour que faire autre chose, mais pas qu'ils ne reviennent pas à nous en tant qu'acteurs de la semence, mais qu'ils reviennent à des organismes internationaux, trucs comme ça, on verrait plus les choses comme ça. Mais,
oui, mais ça suppose des textes qui vous couvrent, en fait, ou ouais, qui vous défendent,
ça,
ou qui plus généralement préserve le patrimoine commun, quoi.
Quand ça ne l'attire pas. Et là, c'est très, très. On est très minoritaire, hein, c'est essentiellement les institutionnels, parce que c'est des traités internationaux, donc c'est les États, et certains États, entre autres l'État français, n'a pas de spécialiste sur les semences. Il n'y a pas un ministre, enfin un administratif. Ils ont géré la question des semences au CNIS, qui est le groupement interprofessionnel des semenciers. Donc, quand ils envoient un spécialiste de la semence à ces traités-là, c'est les semenciers qu'ils envoient. Et en général, ils ne sont pas complètement idiots. ils connaissent où sont leurs intérêts en faisant des, en déplaçant des virgules et tout ça, c'est intenable quoi. Hein. Pour détricoter un texte, ce qu'ils ont fait, c'est pas si simple.
Tout d'abord, merci aux intervenants d'avoir parlé après les exposés de sociologues et d'avoir joué le jeu, c'est pas si évident. Et merci aussi à Sofiane Bergel et Arnaud Mech d'avoir... Enfin, je sais que c'est très compliqué, c'est tout le sens de notre festival d'essayer d'utiliser les sciences sociales et de croiser avec les expériences, mais c'est toujours compliqué. Voilà, enfin bref, je développe pas. Il faut avoir la bonne distance. Enfin, c'est un peu tout le sens de ce qu'on fait, d'essayer de dévoiler, d'expliquer et en même temps d'être plutôt là pour développer la part critique des gens et travailler avec eux et pas leur faire la leçon, etc. Donc c'est toujours compliqué à faire et là c'était un peu résumé dans la même session et donc c'est bravo à tout le monde. Ma question moi c'était sur l'argent parce que c'est la représentante du plan B qui s'excusait quoi donc et enfin enfin, je pense qu'il y a des trucs à discuter quoi, autour de ça parce que alors si on revient un peu à ce qu'on a discuté depuis deux jours sur les grandes notions de capitalisme, de marchandises et de marché, déjà le tout marché pour moi, il y a discussion là-dessus dans les sciences sociales, mais moi les définitions que je retiens c'est que tout marché n'est pas capitaliste, ne relève pas du capitalisme. Ça, d'abord on a eu des marchés bien avant le capitalisme, il y a eu de la monnaie bien avant le capitalisme. Et il y a des marchés aujourd'hui où il y a des acteurs qui ne sont pas de type capitaliste, où il n'y a pas d'accumulation, où il y a une accumulation limitée en tout cas, et qui ne relève pas. Et puis si on regarde le niveau de vie des gens, ils n'appartiennent pas à la bourgeoisie déjà. Mais même du point de vue de la logique économique elle-même, à l'inverse, c'est vrai que comme on critique l'extension permanente de la marchandise, que des pans entiers de ce qui n'était pas dans le marché passent dans le marché, du coup... Évidemment, notre discours tend à décrire que chaque fois qu'on amène l'argent, on amène le capitalisme. Alors c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça bascule dans des acteurs de type capitaliste immédiatement. Il y a des fois, ça va très vite par contre. Pour l'ubérisation, par exemple, là, effectivement, on est dans des activités non marchandes qui deviennent un petit peu marchandes et boum, il y a un acteur économique mondial qui devient un acteur capitaliste majeur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc... il y a des gens qui vivent dans des secteurs qui, depuis des lustres, sont des secteurs relativement régulés et encadrés et qui ne relèvent pas du capitalisme. Et pour revenir au sujet des alternatives, etc., enfin, moi, je pense qu'il y a des expériences aujourd'hui sans monnaie, sans argent, qui sont extrêmement profitables, qui sont très utiles, parce que, bon, déjà, ça fait baisser la pression sur ce qui est marchandisé, sur le gaspillage, etc. En soi, c'est bien en soi, mais aussi parce que ça nous... montre comment on peut se passer d'argent, comment on peut échanger. Mais ce n'est pas non plus une obligation, quoi. Enfin, je veux dire, si on pose comme condition que la bonne pratique, ce soit une pratique non monétaire, je pense que ce n'est pas possible. Et en fait, les pratiques, elles sont considérablement diversifiées, quoi. On n'est pas tous dans le mythe de l'autoproduction d'une petite communauté à la campagne qui va réinventer toute la... Il y a plein de pratiques aujourd'hui différentes et moi ce qui me semble important c'est d'en discuter quoi, et de voir dans quel cas c'est bien de monétariser certaines activités ou pas, est-ce que en fonction des envies des gens et de l'utilité sociale, etc. etc. Et en tout cas moi je vois pas le problème quoi, en soi et voilà.
Ouais, c'est une problématique qu'on se pose nous aussi dans une autre association qui s'appelle le Haricot Magique et dans laquelle donc il y a un terrain qui est mis à disposition, un terrain de culture quoi, qui est mis à disposition et les gens qui le veulent peuvent venir pour contribuer à la culture, pour faire des échanges, pour faire des expérimentations, n'importe quoi, enfin tout ce qu'on veut quoi. Il y a des chèvres, c'est l'ancienne exploitation de Jackie. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est assez sympa, mais où les problématiques, justement, d'échange, d'apport en activité par rapport à récolter des fruits en échange, ne sont pas encore totalement réglées. Et ça vit comme ça.
Et il y a des tenants qui sont de la pure générosité, c'est-à-dire, bah, moi, j'ai envie de donner un coup de main, je viens, et puis voilà. Puis si un jour il y a un fromage de chef qui passe par là, bah, je mettrai dans ma poche si on me le donne. Ça, c'est vraiment le plancher minimal qui est en même temps dans la générosité et dans la non-comptabilisation de la main-d'œuvre. Et puis, il y a ceux qui viennent parce qu'il y a un tracteur à amener. Si on fait des plants de pommes de terre, il faut de la main-d'œuvre. Alors, c'est la main-d'œuvre des membres, évidemment. Mais les membres sont eux-mêmes justifiés à pouvoir avoir une partie de la récolte après. Donc il y a beaucoup de choses, et derrière viennent se greffer des échanges de savoir-faire, des cas pratiques sur la lactofermentation, sur comment fabriquer ces huiles essentielles, d'autres membres, etc. Donc ça fait tout un mouvement un peu qui rejoint un petit peu ce que vous faites, hein, à la Gibeuse. Et à part que nous, c'est en milieu rural. Mais les problématiques, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que on a ces problématiques de est-ce qu'on fait une heure d'activité égale 5 haricots et un fromage de 250 grammes égale 5 haricots. Est-ce qu'on fonctionne comme ça avec des règles strictes ou non? C'est pas encore réglé. Et je pense que ça sera peut-être jamais réglé d'ailleurs.
Oui. Oui, effectivement, merci à vous tous pour ces interventions. Moi, justement, je trouvais que ça marchait bien la présence des sociologues et des praticiens, parce que l'intervention d'Arnaud, finalement, constitue une invitation à la réflexion, voire à la réflexivité pour les militants que nous sommes, sur les conditions objectives de possibilité du militantisme décroissant, mais au-delà d'autres pratiques. Est-ce que finalement, à condition, c'est d'être propriétaire d'une maison avec jardin, ça questionne beaucoup. Et du coup, sur les difficultés de la diffusion de ces idées-là et de ces pratiques ou de ces alternatives. En même temps, je voulais rappeler, effectivement, on réfléchit un peu, on finit le troisième jour, donc rappeler une intervention qui a eu lieu hier, celle de Anne Bory et Blandine Mortin sur les pratiques de consommation des femmes, des fractions paupérisées des classes populaires à Roubaix. Et leur pratique de consommation, elle correspond en quelque sorte à de la décroissance, hein, c'est-à-dire ce que tu dis, faire moins, faire soi-même, faire sans. Elles font ça tous les jours et en même temps, elles ne s'en réclament pas de la décroissance. Hein, donc, c'est-à-dire des pratiques qui répondent à un objectif de la nécessité, se débrouillent avec peu de moyens, mais qui relèvent aussi d'un ordre subjectif d'être dépendant, d'être autonome, de savoir se débrouiller par soi-même. Et dans l'ensemble de ces pratiques, tous aujourd'hui, vous avez souligné l'importance du faire, en l'occurrence du réapprendre à faire. Et parce que finalement, et c'est ce qu'on a dit mercredi, à l'occasion d'une autre table ronde, Jackie, vous disiez que le paysan a été dépossédé de sa ressource, en l'occurrence la semence, mais aussi ses savoir-faire. Et mercredi, on évoquait cette stratégie... Alors, ce n'est pas du capitalisme, mais en tout cas du développement des théories de Taylor, d'abord dans l'industrie, où on a séparé le travail de conception qui était accaparé par des ingénieurs, des cadres qui organisent la production, et le travail d'exécution où on a cassé les anciens métiers et donc les savoir-faire. Et Pascal Canot, qui était dans la table ronde, mentionnait l'exemple du réparateur de lave-linge qui... a désormais un petit appareil électronique qui lui permet de faire le diagnostic de la panne et puis qui s'est laissé déposséder de ses savoir-faire et qui du coup est dépendant des constructeurs et surtout qui possède pas un savoir mais simplement la compétence de brancher son appareil, de lire le diagnostic, de changer la pièce ou de dire faut changer votre lave-vaisselle. Voilà, donc du coup, ce travail-là, il voit aussi la possibilité de valoriser son travail diminué, y compris en termes d'emploi. Et puis on retrouve cette même logique partout aujourd'hui, notamment, je pensais aussi aux mécaniciens sur les voitures, on peut multiplier les exemples. Du coup, tout ce que vous proposez, c'est aussi... ces deux exemples-là, je voulais juste dire, finalement, tout ce que vous évoquez, c'est une forme de réappropriation aussi des savoir-faire populaires, c'est-à-dire issus des savoir-faire des artisans, des ouvriers, des paysans, Alors je me disais, tiens, est-ce qu'il faut y voir une sorte de revanche sociale ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça dit aussi de ces pratiques qui sont développées aussi, peut-être dans une logique de militante du refus d'un modèle de la consommation, du modèle capitaliste, dans une alternative revendiquée, mais ces pratiques, elles doivent aussi sans doute beaucoup au développement de la précarité, y compris parmi les jeunes diplômés, qui sont certes forts de compétences abstraites, mais qui ne leur permettent pas toujours voilà, de trouver un emploi, et qui doivent du coup peut-être se tourner vers d'autres savoir-faire qui permettent cette autonomie dont vous parlez. Donc voilà, c'était juste des éléments de réflexion. Je ne sais pas s'il y a des questions vraiment derrière tout ça, peut-être l'idée en tout cas de cette réappropriation de savoir-faire qui, me semble, sont issus plutôt des milieux populaires, en fait.
Du coup, ça me fait un peu réagir la fin de vos propos, justement, sur ce rapport entre marché de l'emploi et du coup, se tourner vers d'autres types de savoir-faire et en se les réappropriant. Alors du coup, effectivement, nous, on est une asso qui est quand même très très jeune. Enfin, on accueille beaucoup de jeunes qui viennent un peu de partout et notamment de Poitiers. Et j'ai pas l'impression que ce soit subi. J'ai l'impression que c'est choisi. Et en fait, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, après des cursus plus ou moins longs de formation, se reposent la question de, mais en fait, à quoi je sers dans la société? Quelle est mon utilité sociale? Et puis, comment je m'y insère? Quelle force j'ai aussi pour agir sur mon environnement direct et indirect? Et du coup, finalement, c'est plutôt de l'envie, de la curiosité et du désir, en fait, d'élargir son pouvoir. Alors, un pouvoir qui est là, pour le coup, clairement plutôt manuel, qui est plutôt dans le savoir, qui est dans l'échange, etc., dans la capacité à collaborer, coopérer avec d'autres gens, que ça se retrouve. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt joyeux. Enfin, en tout cas, nous, tel qu'on le vit, il y a vraiment l'idée d'une joie et pas l'idée de l'épée de Damoclès du marché de l'emploi sur nos têtes, auquel on pense en se levant. Bien au contraire. Voilà, après, je dis ça avec aussi toute une réalité économique qui est celle de jeunes qui sont dans une vraie précarité et qui en souffrent. En tout cas, dans la démarche, il y a l'envie de moins dépendre justement d'une somme fixe d'argent et de continuer à vivre dignement et de façon heureuse. Alors, c'est peut-être un peu utopiste, dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'on le vit un peu pas à pas.
C'est pas uniquement utopiste, parce que nous, par exemple, la CBD, on a passé la quarantaine maintenant, hein. Mais on a des jeunes qui sont chez nous, et notamment une jeune femme qui habite du côté des Deux-Sèvres. Et ils ont réussi à acheter une ruine au départ avec du terrain, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, d'avoir du terrain. Ils sont 5 ou 6 et ils réapprennent aussi bien sur le plan de la construction, des constructions. Disons naturel, etc., avec de la paille et tout ça, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi sur le plan culturel. Et donc leur volonté déterminée, c'est d'arriver à l'autonomie. Mais du coup, arriver à l'autonomie, c'est aussi changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que un truc que il y a dans les années 60, on achetait, maintenant on peut se dire. Et si je le fabriquais, ce truc-là? Alors, évidemment, pas une voiture, hein, mais je pensais ce matin, je voulais acheter du mastic. Je vais dans un magasin, quoi, je ne sais pas, c'était le Roi Merlin. Et puis, je regarde le mastic, mais je me dis, mais peut-être que je peux le faire, ce truc-là. Et si ça devient un réflexe, déjà, ça nous donne une petite porte vers l'autonomisation. Parce que derrière, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi évoluer comme ça. Et il y a de nombreux domaines, mais ça prendrait des heures. Mais là, c'est juste un exemple. Voilà, changer de vision, de position dans la vision des choses. Si je peux le faire moi-même, est-ce que je le ferai? Et si je peux en faire bénéficier les autres, alors là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas forcément un militantisme affiché en disant « ouais ». Mais l'action et le résultat de cette action, ça revient exactement à la même chose.
Oui, pour compléter... Quand on veut se devenir autonome, il y a plein de savoir-faire à se réapprendre, et on ne peut pas tous les réapprendre. Donc ça nous oblige à aller voir un copain, ça nous oblige à jouer collectif. Quand je veux me faire plaisir et que je veux m'acheter un costume pour la dernière fois, ça date quand même. Mais voilà, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de l'argent, point. Là, dans l'autre solution, tu es obligé de composer avec le milieu et de partager, quoi.
Je peux peut-être compléter juste sur la question des pratiques populaires. Donc, Hélène, là, tu disais à juste titre qu'effectivement, il s'agit à 100% d'usages de pratiques populaires, donc qui sont déjà expérimentés depuis longtemps par des milieux sociaux différents de ceux qui se les réapproprient maintenant. Et c'est tout l'enjeu, la question de cette réappropriation par, du coup, des individus qui sont socialement situés plutôt au milieu ou en haut des classes sociales. Et l'idée de ce faire ensemble que j'évoquais à la fin, où je montrais grosso modo que quand on n'a pas les conditions de possibilité de militer chez soi, parce que on n'a pas de terrain, parce qu'on n'a pas cette fameuse ruine à retaper avec des copains ou je ne sais quoi, qu'on vit dans un petit studio en plein centre-ville, et ben on va chercher des initiatives à droite à gauche, et du coup on est amené à faire ensemble. Mais le pousser plus loin, se faire ensemble, c'est peut-être faire ensemble aussi avec ceux qui font déjà comme ils le font. Et du coup, c'est un peu l'idée que tu énonçais avec les liens avec les trois cités, et ben c'est d'aller justement, ces mêmes pratiques qui d'un côté ont une dimension complètement militante et de l'autre qui ont une dimension quotidienne et finalement très pratique, où il n'y a pas de sens derrière hormis celui de subsister, d'exister, si on les met ensemble et qu'on arrive à mettre ces individus issus de classes différentes ensemble et montrer qu'on fait la même chose et qu'on peut y mettre d'autres sens, je pense que là, du coup, la dimension du faire ensemble, elle prendra une perspective déjà plus militante, enfin à mon sens, que le faire ensemble entre soi, quoi.
Juste une petite question, je suis désolée parce que j'ai sans doute pas bien écouté. C'était sur l'interdiction de réutiliser les semences. Il y a quoi comme justification, donner juste le droit de propriété? Donc je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. Et puis j'avais une question totalement anecdotique pour Louise, enfin pour la gibbeuse. J'ai vu sur le tableau de répartition des tâches la tâche de Mueller, qui était le seul qui n'était pas féminisé. Je voulais savoir ce que c'était. Voilà.
Vas-y, réponds.
Une blague.
Oui, moi, pour la question des semences, on parle des semences commerciales, quoi. Et pour les agriculteurs, pour le jardinier amateur, pas de problème. Il n'y a pas de. Depuis la dernière loi sur la biodiversité, ça a été éclairci. Mais on a d'autres inquiétudes, les petits semenciers. Parce qu'il y a un catalogue et tout ça, c'est que pour les semences inscrites au catalogue. Mais ne peut se vendre sur le marché que des semences inscrites au catalogue. Et les petits semenciers alternatifs, même si tu n'aimes pas le nom, ils ont beaucoup de semences non inscrites. Et eux, ils se retrouvent hors normes et à ne plus pouvoir travailler. Donc ils ont quand même continué, ils ont eu un procès, mais le procès est tellement faramineux que de toute façon, ils ne pourront pas payer non plus. Alors ils continuent comme ça. On ne sait pas comment ça va se terminer. Mais c'est pour les semences inscrites au catalogue. Et on a le droit de ressemer 21 espèces, dont le blé, à condition de payer la COV. Elle est législative. Après, est-ce que la loi est pour le commerce ou pas? Je ne sais pas.
Les semences, elles sont couvertes par le droit de la propriété intellectuelle. Elles sont brevetées.
Non, c'est pas la même chose. Mais le critère principal, vous avez raison, c'est pas le commerce, c'est pour des raisons sanitaires, pour qu'ils se vendent pas n'importe quoi, parce qu'on est un peu idiots. Et voilà, oui. Mais toutes les lois commerciales se basent sur ce critère-là.
Oui, ça c'est pour la justification de les mettre au catalogue ou pas.
Ouais.
Oui, mais sinon, en fait, les producteurs, enfin les firmes sont considérées comme propriétaires intellectuellement des semences. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont couvertes, c'est comme le logiciel, elles sont couvertes par la propriété intellectuelle. Oui, au sens américain, mais au sens européen, c'est la propriété intellectuelle. D'où les licences d'utilisation, les contrats et tout ce système-là. Que justement les libristes ont détourné pour se le réapproprier et le mettre dans le pot commun. C'est pour ça que je parlais de ce modèle-là et de la question des. Pardon ? Oui, oui, c'est exactement la même chose, mais c'est le même fondement.
On était très contents qu'au niveau des animaux, il y ait eu un petit blocage administratif parce que je pense que, que ça leur pose des problèmes techniques, mais ils voulaient même breveter des gènes animaux. Et là, en agriculture, on ne voyait pas trop où ils voulaient en venir, quoi, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 taureaux qui alimentent la banque de sperme pour les vaches laitières dans le monde. Et ils font plus de 60% des inséminations, quoi. Donc, à un moment, ça allait être... on voyait même plus comment ils pouvaient contrôler à la fin, quoi.
L'autre jour, ici, il y avait un chercheur de l'INRA qui expliquait qu'il y avait une provocation, qui n'était pas une provocation, en fait, de... je ne sais plus quelle multinationale, qui s'était appropriée et qui avait breveté, des gènes d'une plante médicinale utilisée en Amérique du Sud, etc. Ouais, ouais. Je n'ai plus l'exemple précis, hein, mais en gros, ce qu'il avait dit, c'est qu'ils se l'étaient approprié, ils avaient développé un truc et ils avaient prétendu interdire aux usagers traditionnels, donc aux paysans ou aux médecins du coin, de l'utiliser. En prétendant les faire payer. En fait, ils n'attendaient pas du tout que les gens les payent. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'était un procès, provoquer une réaction qui a fait qu'au final, on a dit, oui, non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, à moins de partager avec les usagers locaux qui avaient une sorte d'antériorité. Donc, en fait, le résultat qui était attendu par la firme en question, c'était de faire tomber des savoirs traditionnels, etc., dans un domaine contractuel. Et donc, au final, après, que effectivement, tu peux faire que les gens localement aient des retours, mais au final, là où tu n'avais pas de transactions, ça faisait partie des savoirs traditionnels, partagés naturellement, etc., tu te retrouves avec une contractualisation, y compris monétaire. Donc, ils avaient formalisé le fait de marchandiser ces savoirs-là.
Oui, du coup, c'est plutôt une question pour Louise Ollier, pardon. Qui va être un petit peu scolaire, en fait, j'ai l'impression, mais est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur les catégories sociales des gens qui sont intéressés, qu'ils interviennent, quel que soit le titre, quoi, dans l'association? Et la deuxième chose, enfin, en fait, j'ai une question un petit peu plus complexe, mais j'arrive pas trop à la formuler, alors je vais faire comme ça. Est-ce que vous pourriez aussi développer un petit peu sur vos rapports avec les habitants des trois cités? Est-ce que vous passez uniquement par le canal par les associations présentes aux trois cités, les maisons de quartier, les centres sociaux, etc.? Ou est-ce que il y a des habitants qui font la démarche de venir vous voir? Et est-ce que créer des conditions, pas d'une politisation forcément, c'est un grand mot et tout, mais d'une réflexion entre des gens qui appartiennent pas forcément aux mêmes catégories sociales sur le monde tel qu'il marche, sur ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Quoi. Ouais.
D'accord. Alors, les catégories sociales, donc des givons. Alors, c'est pas forcément évident parce que on va dire que la moitié des personnes qui sont adhérents, c'est des personnes qui viennent interpellées par le projet, mais qu'on connaît pas, enfin avec qui on n'a aucune relation sociale en dehors du moment partagé. Alors voilà, je connais pas l'ensemble de leur historique ni de leur milieu familial d'origine. Pour autant, je pense que déjà il y a eu pas mal de changements avec les années. C'est-à-dire que la première année, le moment où on a ouvert le lieu, en disant, c'est ouvert, il y a du chantier, etc. On était passé par des canaux de type réseaux sociaux très marqués alternatifs. Et donc, on a eu en présence les amis, donc ça, du même milieu social que nous. Après, on a eu aussi beaucoup de gens, en fait, qui avaient l'habitude, qui était rompue, on va dire, au milieu alternatif, faisant du woofing, faisant le tour de France en camion, des lieux alternatifs, etc. Donc étant déjà très engagé dans des démarches. Donc, Donc, pour ce que ça veut dire, c'est que pour le groupe d'origine, on est plutôt soit issu de, on va dire, de classe médiane, soit, j'ai du mal à identifier des classes sociales bien, bien idéaltypes, mais on va dire, un peu ouvrière plus, enfin, quelque chose de l'ordre de l'ouverture, très culturelle, quand même, de gauche, avec cette idée qu'on peut faire des trucs, enfin, donc, je sais pas. Ça vous va, à peu près?
Diplômé, a priori.
Alors, pas forcément. D'accord. C'est-à-dire que dans le groupe de départ, il y a quand même 3 personnes qui n'ont pas leur bac. Voilà. Donc, et qui ont pris des tangentes un peu diverses et variées, qui se sont beaucoup formées sur le tas, avec un artisan pour l'un, avec un boulanger pour l'autre. Et du coup, qui sont revenus aux études plutôt par des entrées thématiques qui les intéressaient et qui avaient vraiment décroché vite du milieu scolaire. Et pour l'autre moitié d'entre nous, des grosses études même. Voilà. Des temps longs d'études. Voilà. Donc on était vraiment, il y a un peu un mix. Et puis après, en fait, l'évolution, c'est avec les années, il y a eu de plus en plus de poids de vin, parce que donc on est passé pas aussi par les mêmes canaux, on a fait des choses, donc les gens ont pu voir des choses, et donc ça leur a fait moins peur, et ainsi de suite. Et du coup, là, cette année, par exemple, on est vraiment à presque 60% à 70% de gens qui viennent plutôt du bassin, enfin du coin, et du coup le restant qui vient ponctuellement mais de l'extérieur du territoire. Et du coup, quand même, je trouve aussi en termes d'âge, une plus grande variété de personnes. On a pas mal de personnes retraitées en fait qui viennent passer du temps avec nous, qui ont des savoirs à transmettre. Que ce soit dans le jardin, dans la construction, la maçonnerie, le tricot, dans la garde d'enfants aussi. On a des gens qui viennent garder des enfants et tout. Enfin, voilà. Du coup, il y a des gens qui ont juste envie de partager des moments avec d'autres et puis du coup qui viennent alors qu'ils ne se sentaient pas forcément visés par ce qu'on pouvait afficher la première année. Donc voilà, il y a eu un revirement à ce niveau-là. Ça répond à votre question. Et puis, donc on a des gens qui ont vraiment zéro revenu dans les gens qui viennent, et puis des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, mais qui se posent la question de est-ce qu'ils romperaient pas leur contrat pour faire autre chose. Enfin, on a quand même beaucoup ce profil-là de gens dans les gens qui travaillent, de gens qui se posent des questions sur leur travail quand même. Voilà, ça c'est un peu de longs débats de repas. Et puis après, sur les habitants des 3 cités, aujourd'hui on est encore dans quelque chose à maintenir et à construire. C'est pas facile en fait. Et c'est vrai que déjà structurellement, en fait, on n'est pas très visible et il y a quand même, c'est pas connu quoi, qu'il y a un accès au Clain par là. En plus, c'est pas, en fait, notre partie du Clain, enfin, en face c'est la Varenne, donc qui appartient à Saint-Benoît qui est public. Mais de notre côté, en fait, on est sur un passage qui est seulement normalement destiné aux pêcheurs, avec des barrières en fait qui interdisent l'accès, enfin, en tout cas qui peuvent faire peur à quelqu'un qui ne sait pas que d'usage on peut y aller. Il y a même des propriétaires voisins qui gueulent sur les gens pour dire que c'est pas un passage public. Donc voilà, il y a un peu cette question de la frontière entre public-privé déjà qui est questionnée à travers ce passage de bord de rivière, même si le dimanche on voit quand même un grand nombre de personnes passer sans se poser de questions. Du coup, pour les habitants des 3 cités, c'est pas forcément évident non plus, c'est pas marqué, il y a pas forcément c'est pas très clair quoi. Et puis du coup, c'est vrai qu'on est passé par le centre social parce que c'est vrai qu'ils avaient déjà une réflexion là-dessus, un questionnement sur ces enjeux-là, que ce qu'on faisait les intéressait, qu'il y a vraiment eu une réflexion croisée, notamment sur la partie jardin, parce qu'eux ont une parcelle au niveau du jardin partagé, qui est à côté du jardin d'insertion, et en fait qu'ils n'utilisent pas. Enfin, personne n'y va, aucun animateur ne sait utiliser une bêche, et en fait, les gamins n'y vont jamais, en fait. Et du coup, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, du coup, c'est une parcelle qui loue pour rien, quoi. Enfin, qui leur est mis à disposition et qui a aucun usage. Et en plus, la particularité du centre social des 3 cités, c'est qu'il n'y a pas de cours. Il n'y a même pas un espace bitumé devant le centre social pour être dehors. Donc en fait, du coup, c'est soit t'es dans une salle un peu bruyante parce qu'elles sont, aménagées. Elles sont bruyantes, quoi. Soit t'es dans la rue, mais en fait, il n'y a pas d'espace un peu tampon de convivialité, quoi. Du coup, pour eux, c'était un vrai enjeu. Et donc, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Et après, il faut renouveler le lien. Enfin, il faut revenir un peu à la charge régulièrement, quoi. Donc, pour nous, c'est c'est un vrai point d'intention. Et c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas de salariés de la gibeuse, donc c'était que des actions bénévoles. Et du coup, bah voilà, cette envie-là, elle était là, mais du coup, pas forcément en fil sur l'année. Là, avec justement ce partenariat avec le MRJC qui a des forces actives salariées, donc là, il y a deux salariés qui travaillent sur place, pas forcément pour la gibeuse, hein, mais qui ont leur bureau là. Et du coup, il y a une des personnes maintenant qui a 50% de son temps qui est dédié en fait à l'animation du lieu avec nous, avec l'association gibeuse qui est là encore bénévole. Bah, du coup, là, on se met vraiment sur ce sujet-là avec l'envie de le nourrir et de rendre plus ténue cette chose-là. Et après, pour la dernière chose, c'était que oui, il y a des gens qui passent, il y a plein de passants qui... en fait, on a quand même un accès rue et donc un accès clin. Du coup, dans les deux endroits, c'est un endroit en fait de communication. Et en fait, là, l'envie, ce serait de pouvoir aussi écrire des choses, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses formalisées en termes de signalétique, etc. Là, pour l'instant, on a le panneau de permis de construire qu'on a un peu modifié pour expliquer ce que c'était. Enfin, on n'a pas mis chantier interdit au public, on a mis chantier participatif, et puis on a expliqué la visée du projet et tout ça. Donc là, maintenant, c'est aussi des choses qui... des petites portes d'entrée pour amener à la discussion. Du coup, on fait souvent des visites improbables du lieu dans les heures où on est là. Donc oui, ça décloisonne un peu, mais on pourrait encore aller 100 fois plus loin. Mais il y a cette envie-là, quoi. Mais voilà, il faut le nourrir.
Bonjour. Je suis habitante des Trois Cités. J'étais assez active au centre socioculturel et je dois dire que je n'ai jamais entendu parler de vous. D'accord. Et c'est en me promenant il n'y a pas longtemps, et ça ouais. fait 30 ans que je suis dans le quartier, que j'ai vu écrit La Gibeuse, mais du côté Mérigotte, du côté ouais. haut. Bon, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ouais. Parce que rien n'explique. Et donc, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. Qui êtes-vous et comment on peut rentrer en contact avec vous? Et comment ça se fait que, étant quand même assez branché sur le sens socioculturel, j'ai jamais entendu parler de vous, autrement qu'en me promenant comme ça.
Ouais. Alors nous, on est en contact en fait avec les personnes qui s'occupent des jeunes au
avec
niveau.
Avec Patricia.
Voilà, exactement. Ouais, et du coup, ça fait là un an et demi qu'on travaille avec eux. Et puis du coup, on avait animé toute la partie, tout le programme de Pâques pour justement les 20 jeunes qui étaient, enfin tout le programme en fait d'animation des jeunes au moment des vacances de Pâques de l'an dernier. Voilà. Donc ça, c'était notre point d'entrée. Après, il y avait un groupe de femmes qui étaient venues aussi visiter le lieu et qui déjà échangent des savoirs entre elles. Mais effectivement, on a raté une occasion à un moment donné de se présenter un peu officiellement au niveau du centre social sur un moment où ça aurait pu. Et pour l'instant, on a des liens avec certains des salariés, mais voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Après, comment on peut entrer en contact avec nous? On a un site internet qui, en fait, a un espace contact où on peut nous contacter pour prendre rendez-vous. On peut aussi se pointer, notamment le week-end, sur le lieu, parce qu'on est souvent là.
Mais votre lieu, c'est où?
Eh bien, il est au 84 rue de la Mérigotte.
Ah ben, c'est en haut, ça.
Oui, oui, c'est l'entrée rue. Et en fait, après, c'est un coteau.
Et après, parce que vous parliez... Ah oui, jusqu'au clin, donc.
Exactement. On a une parcelle en longueur qui fait avec 30 mètres de dénivelé. Voilà, donc c'est un petit chemin qu'il faut emprunter. La maison est attenante à la falaise et au milieu de la falaise, donc elle n'est pas visible de la route. Et au niveau de la route, on a juste donc un atelier collectif et des petits bureaux qu'on a construits au début, en fait. Voilà, donc c'est la partie visible de l'iceberg.
Et alors, vous faites quoi? Enfin, votre objectif, c'est quoi? Enfin, parce que moi, je ne vous connais pas. Donc,
d'accord, vous n'étiez pas là tout à l'heure, c'est ça?
Non, je suis arrivée.
D'accord, ok.
Non, j'étais pas là quand vous avez.
Et dans ces cas-là, peut-être qu'on peut, on peut se voir juste après. Oui. Comme d'accord. Ça, je vous réexplique.
Parce que là, pour monter la truc.
Le mot décloisonner a été employé. Je crois que c'est toi qui le disais, Louise. Est-ce que vous avez envisagé de profiter des journées du patrimoine, par exemple, pour que des gens qui verraient une autre facette du patrimoine, construction, bâti, etc. Je ne sais pas le thème de l'année, c'est en septembre, etc. Moi, il me semble qu'il y a quatre ingrédients qui sont importants pour créer une dynamique et une ouverture d'esprit. Je pense entre autres à ce qui se passe sur Notre-Dame-des-Landes. Le défi, c'est de rassembler, plus ou moins, ou de faire dialoguer des agriculteurs FNSEA qui avaient pour objectif de vendre le plus cher possible la terre à au département pour Vinci, des agriculteurs plutôt Confédération Paysanne qui voulaient plutôt vivre de leur activité sur leur terrain, des habitants qui pour certains voient les taxes qu'ils pourraient avoir avec un gros projet comme ça, et d'autres qui veulent de la tranquillité et rester un peu dans le contexte actuel. Et puis des gens qui arrivent de l'extérieur, qui s'installent là, les fameux zadistes, comme un lieu d'expérimentation, d'alternative ou de mise devant leur blabla ou idéal de société. Ou là, et le défi, il se concrétise par, je crois, quatre ingrédients donc essentiels. C'est de l'action. Il y a des zadistes qui cultivent des légumes en bio. Il y en a qui font du pain. Ils ont appris sur place. Ça peut être des chantiers collectifs de construction de cabanes dans le quartier de la Châtaigne. C'est de la réflexion avec les journées début juillet pendant deux jours où il y a plein d'intervenants et de débats très participatifs. C'est du tissage de liens, pas toujours facile entre les anards, les écolos, les babacools, etc. Mais ça avance. Et puis un côté festif. Parce que si on est seulement à se prendre la tête en critiquant l'état de la planète et des grosses multinationales, on peut organiser éventuellement un suicide collectif, mais c'est sûrement pas la meilleure solution. Et le côté festif à Notre-Dame-des-Landes, ils l'ont intégré dans leurs composantes. Alors que sur d'autres luttes, Bure par exemple, par rapport au stockage de déchets radioactifs plus qu'en projet, il n'y a peut-être pas cette dimension qui attirerait des gens. Donc voilà, je proposais ça. Et puis deux pages de pub. Une d'un tract, un catalogue qui est dans beaucoup de boîtes à lettres que j'ai trouvé tout à l'heure. Mais ça veut dire que dans nos modes de consommation, parce que c'est là, on peut ne pas être que consommateur. Parce que moi j'ai consommé aussi, j'ai usé un petit peu de pneus de mon vélo pour venir aujourd'hui. Donc si je ne veux pas consommer, je ne viens pas. Et c'est un peu dommage. Donc dans nos choix de consommation, indirectement, on soutient des multinationales de la semence, du pesticide, etc. Alors je ne vous dis pas quel est le magasin, mais bon, après, chacun fait son chemin, et c'est le but de ces rencontres-là, de ces journées-là, c'est pas de dire à la sortie des trois jours, on va tous des super éco-citoyens, etc., mais c'est un cheminement, et on ouvre un peu le regard. Et la dernière page de pub, le 23 septembre de cette année, ce sera la journée nationale de la transition. Plus concrètement, un groupe s'est créé qui s'appelle Alternatiba en prenant l'expérience des Basques bâillonnés depuis 4 ans. Et on organise avec des gens de la structure où travaille Louise, etc., le Poitou Vert, c'est-à-dire des artisans, des entreprises qu'on peut trouver comme responsables. Des associations, des collectifs, des particuliers vont être mis en évidence pendant deux jours à Blossac. Les alternatives actuellement existantes qui permettent de ménager le climat, parce que l'enjeu d'Alternativa, c'est de voir comment on peut éviter trop de dégâts au niveau du dérèglement climatique. Donc ça sera entrée gratuite. On n'est pas encore clair sur il y aura des activités payantes ou pas, parce qu'il ne faut pas culpabiliser sur le côté économique, mais il faut qu'il y ait une certaine viabilité économique. Et les paysans, ils ont une viabilité économique. Le chercheur à l'université, il a besoin aussi de sous pour fonctionner avec son équipe, etc.
Dernière question.
Une question ou remarque, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de bien la formaliser. On a parlé un peu de la question de comment ces pratiques cherchaient à être cohérentes, cherchaient à mettre en cohérence un mode de vie et des idées. Tu as beaucoup évoqué Arnaud dans ta présentation. Jackie, vous êtes agriculteur. Julie, toi tu es finalement indépendante, enfin salariée indépendante, voilà. Et je me posais la question, j'ai oublié mon prénom. Louise, merci. De savoir si en fait de Est-ce que tu as une activité en dehors de, voilà, de la gibeuse qui, toi, te permet aussi de vivre et, voilà, ou est-ce qu'en fait cette cohérence entre un mode de vie qui rejoint la question du travail, en fait, hein. Du coup, est-ce que tu as une activité à côté ou est-ce que tu tires un revenu de des activités de la gibeuse ou je ne sais quoi?
Non, le choix qui a été fait, c'est qu'il n'y ait pas de... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de modèle économique sur le lieu. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui tire un revenu des activités du lieu. Et c'est aussi pour ça qu'on peut mener un prix libre sur tout ce qu'on mène, que tout est gratuit, etc. etc. C'est en train de se réfléchir avec le scénario de reprise du foncier par une instance collective et du coup aussi de... une location de la maison. Enfin voilà, du coup, ça c'est en travail et bien sûr ça avance. Du coup, l'idée d'avoir des salariés sur place pour me mener la suite des travaux, pour animer le lieu, etc., se pose clairement dans ce scénario-là. Mais ça ne me concerne pas plus que ça, puisque ce n'est pas forcément moi qui en serais salarié si ça devait se faire. Et du coup, effectivement, la question du travail, elle est hyper importante dans nos réflexions, elle est hyper présente et tout ça. Et du coup, on parle surtout d'activité, nous, parce que sans forcément faire de distinction entre celles qui sont rémunératrices et celles qui ne le sont pas, mais sachant qu'elles sont, enfin, pour nous en tout cas, qu'il y a une importance équivalente en termes d'épanouissement et de travail sur soi et de travail pour les autres, etc. Donc c'est plutôt le terme activité qu'on utilise. Et après, pour répondre directement à votre question, moi j'ai deux activités en ce moment, enfin deux activités rémunératrices en ce moment. Une à mi-temps dans une association locale qui s'appelle Curiose et qui travaille sur les questions de solidarité internationale, qui fait de la pédagogie active sur ces questions-là auprès de publics divers et variés. Et donc je suis animatrice à ce titre-là. Et puis j'ai un autre temps partiel dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Oxalis et dont je partage les valeurs humaines et économiques. Et du coup, dans ce cadre-là, je suis entrepreneur et je travaille avec des collectifs, que ce soit des collectivités locales ou des associations, sur les questions de coopération. Donc comment on bosse ensemble, comment on se fait pas mal, enfin, ou en tout cas on se fait mal, mais enfin, en tout cas on avance sur des projets de façon cohérente et en conscience. Et du coup, comment on utilise aussi des outils de prise de décision, consentement, etc., etc. Voilà, du coup c'est ça que je mène, et avec l'enjeu de garder du temps non rémunéré et non productif pour faire d'autres choses, notamment m'occuper de ma fille, faire du jardin, voir des gens, partager des choses avec d'autres personnes. Enfin voilà. Du coup, il y a quand même cette envie-là de pas être, enfin de réfléchir au temps et à sa répartition et à combien j'ai besoin aussi par mois pour selon mes critères, sachant qu'effectivement on est autonome en énergie, on paye pas l'eau. Enfin voilà, on a un certain nombre de coûts qui sont diminués par nos modes de fonctionnement. On n'a pas de frigidaire, voilà, tout ça, tout ça. Mais du coup, comment, avec cette petite base que j'ai à gagner, comment elle s'équilibre dans mon temps disponible et ainsi de suite. Ça, c'est des vraies questions. Enfin, je pense que tout le monde se les pose à sa manière. Mais du coup, oui, ça, moi, j'ai l'impression que ça fait partie de mon quotidien aussi que de processer là ces questions et de, à chaque fois, y trouver un nouvel équilibre. Clairement, depuis que j'ai un enfant, je me pose, enfin, mon niveau n'est pas le même que quand j'en avais pas. Enfin voilà, c'est toujours. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que la gibeuse n'est pas économiquement, n'a pas un process économique aujourd'hui établi. Pour autant, j'ai l'impression que pour toutes les personnes qui ont donné du temps et qui se sont investies dans la gibeuse, ça a été un vrai tremplin aussi dans leur réflexion professionnelle. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a passé presque 2 ans et demi hyper investi, hyper bénévole à la gibeuse, et qui a beaucoup, beaucoup donné de son temps sur la logistique et sur la préparation des repas, maintenant, c'est quelqu'un qui est traiteur et qui fait du produit vraiment de qualité en bio et beaucoup autour des régimes justement spéciaux, type sans gluten, etc., et qui vit de ce métier-là. Un autre qui maintenant travaille le bois aussi de façon un peu alternative. Enfin, du coup, c'est aussi des tests qu'on a chacun pu faire dans des domaines qui nous plaisaient et qui aujourd'hui sont des sources de revenus à l'extérieur de la gibeuse. Donc voilà, il y a eu aussi ce process-là et ce travail-là. Moi, pareil, tout ce travail sur la coopération. J'ai fait plein de tests finalement in vivo à la gibeuse. Et puis aujourd'hui, j'en parle et j'en vis aussi avec d'autres collectifs, quoi. Voilà.
Merci beaucoup à vous, merci à toutes et à tous. Et puis le festival va se poursuivre sur un mode festif, donc c'est au plan B. Et on va tous profiter du fait justement qu'il s'agisse d'une activité économique viable.
C'est ça, merci.